C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour Boudadi.
Bonjour à tous.
Avec Daniel Morin.
Bonjour.
Avec Albert Algou.
Bonjour.
Avec Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Et avec notre invité Loïc Perron.
Oui. Bonjour, bonjour.
Loïc, bienvenue à ce micro. Tout va bien, Loïc, ou pas?
Bah, ça va pas mal. Je vais renverser un peu d'eau.
C'est rien.
D'eau sur un magnifique dessin.
Eh ben oui,
c'est Benoît Poulvorde qui l'a dessiné l'autre jour.
J'ai le droit de le prendre? Non, il est collé.
Ça va être difficile. Oh, ouais. Il était dans le même état que le dessin.
C'est oui.
En même temps, dès que vous allez quelque part, il y a de l'eau qui arrive quelque.
Exactement. Vous,
c'est un signe. Loïc, on va, avant de parler de la route du Rhum et de ses 40 ans de légende et surtout de votre préparation à cette route du Rhum dont vous êtes le, non seulement le détenteur en termes de victoire, mais de vitesse aussi, recordman.
Et oui, en plus.
Félicitations.
Ah, ouais. Rapide.
Respect.
Rapide, en plus.
Respect. Qu'est-ce que Loïc...
Trop rapide.
Qu'est-ce que Loïc...
Ça, je ne peux pas m'avancer.
Attention, les questions.
Qu'est-ce que Loïc Perron aime déguster en pleine mer et qui
une
lui
banane.
Du cidre.
Non, ah non, c'est la banane, c'est autre chose.
Oui, mais c'est pour... la mangue.
Non.
Du cidre.
J'ai pas fini.
Oui, il n'a pas fini la phrase.
Du rhum.
Qui lui rappelle sa famille et sa maison.
Bah, yaourt, de l'alcool.
Des crustacés.
Du chouchen.
Ah, des petits gâteaux bretons.
Non.
Des huîtres.
Non.
Des palourdes.
Ça lui rappelle la maison.
Du pain.
De la purée.
Non, c'est fabriqué à la maison.
La soupe.
Des gâteaux.
Non.
Où ça provient de la maison?
Des lasagnes.
N'aide pas toi.
Des légumes.
Non.
C'est un produit naturel qui vient de la maison.
Du vin.
Produit naturel qui vient de la maison.
Du vin.
Un détergent.
Ah, t'es là, Guillermo Guise.
Bonjour, Nagui.
Ouais, c'est ça.
Il te déteste. T'as vu ça?
Alors, réfléchissez un peu.
Oui,
qui provient de la maison?
Qui provient
de
la maison?
C'est pas notre point fort, la réflexion.
Des gâteaux.
Moi, j'achète tout.
Des gâteaux, mais c'est pas une boulangerie, ma maison.
Perdu.
Alors, ça peut être
confiture.
Choses. Ça peut être deux choses.
Ah, alors, on a
les œufs de poule.
Exactement. Les œufs de mes poules, mais ça peut être le miel.
Vous avez des poules dans votre maison?
Les œufs de mes poules.
Non, dans le jardin.
Bah ouais, mais vous voyez
on
bien
a dit
que...
qui est fait à la maison.
Mais oui, c'est ça. Ouais.
Des œufs, c'est pas fait. Je suis désolé.
Bah, non,
j'ai dit produit naturel.
Produit naturel.
Tu as dit fait à la maison.
Non, fait à la maison. Menteur. Fait à la maison.
Ok.
C'est que. Alors, c'est vraiment.
On va croire que c'est lui qui les pond.
C'est que psychologique de se dire. Ces œufs que je mange me rappellent la maison.
Oui, il les couvre aussi.
Non, mais c'est aussi nettement meilleur, malgré tout.
Oui, c'est vrai.
C'est bio.
Ah, évidemment, c'est 100% bio. C'est au bord de l'eau, c'est du pré-salé quasiment. C'est de la poule au pré-salé.
On
c'est
rare. Manger chez vous.
Elle rentre la nuit quand même, parce qu'il y a les renards.
Bien sûr, bon, et j'ai une petite porte automatique avec ce panneau
maintenant,
solaire.
Maintenant, ça se fait, ouais,
ça c'est
se fait
bien.
Et il y a du grillage sur le sol.
Il y a du grillage autour. On en a perdu beaucoup.
C'est quoi, c'est une chatière pour poule ou c'est quoi?
Oui,
c'est
une poulière pour chat.
C'est bon.
Autre question. Dites-moi, s'il vous plaît, concernant Loïc Perron. Il se sépare systématiquement
de sa femme.
Bonne réponse.
C'est une grosse tête. C'est une catastrophe.
Avant une course, il se sépare. Il ne part
de ses vêtements.
Il ne part jamais en bateau avec
ses bijoux,
son porte-monnaie,
son couteau, sa montre.
Non, son alliance.
Son alliance.
Je me sépare jamais de mon alliance.
Ah ben voilà, j'ai marqué un point.
Voilà, ouais, il y a une vraie différence. Ça implique
Nagui, vous avez perdu.
10 points au moins.
10 points au moins.
Parce que quand il va en voyage, il se sépare de son alliance.
2014.
Oui.
Dans Paris Match.
Ah ben attends, évidemment. Donc forcément, c'est faux.
Il a divorcé deux fois entre temps.
Dans Paris Match, j'enlève systématiquement mon alliance pendant la navigation pour ne pas me blesser.
Eh bien, c'est faux.
Et c'est la première chose que je remets quand je termine la course.
Oui, c'est joli. On voit que j'aime bien penser ça. C'est pas mal.
Ouais.
On a l'impression
ils ont inventé.
Non, il est vrai que garder des bagues éventuellement, c'est dangereux pour la manœuvre parce qu'on peut se faire arracher des doigts. C'est arrivé quand les bagues étaient un petit peu plus proéminentes qu'une alliance.
Quel que soit le métier d'ailleurs.
Quel que soit le métier, évidemment.
Mais je les garde.
Pas chroniqueur.
Les joueurs de foot
qui jouent beaucoup avec la main, certains d'entre eux éventuellement devraient l'enlever. Mais la plupart des
joueurs. Et tout de suite, les joueurs de foot, que ce soit les boucles d'oreilles, les bijoux autour du cou ou les
anneaux peignants,
soit ils mettent une espèce de sparadrap autour des bijoux, ils sont obligés de les retirer, mais c'est plus pour ne pas blesser l'autre
évidemment.
Voilà, en même temps, c'est difficile pour Nagui parce que quand il sort de chez lui, il enlève son alliance toujours.
Oui, c'est ça.
Et il
croit que tout le monde fait.
C'est le mauvais doigt pour l'alliance, Nagui, que vous êtes en train de me montrer.
C'est filmé.
Non, c'est le doigt d'à côté, c'est vous qui regardez le mauvais. Ça s'appelle l'instinct.
Défaut d'avoir de l'intelligence.
Loïc Perron est accro, il est addict depuis toujours, mais à quoi?
Cocaïne.
Aux séries?
Au rhum?
Non.
Accro à quoi? Aux huîtres? C'est la nourriture?
Ça se mange,
non.
Ça se boit?
À la vue de la mer?
Non.
La solitude?
Non.
C'est un art?
Justement, ça n'a rien à voir avec
le monde, la foule,
le tricot,
l'alpinisme.
Non.
Mais la bagnole?
C'est bon pour la santé ou pas?
Ça peut aider, oui.
L'addiction?
La gym?
Je sais même pas. Ah, la gym, non.
Le sport, c'est sûr, non.
Que... Ou alors ça se voit pas.
La sieste.
Ah, il paraît que c'est très bon pour la santé. Ouais.
Méditation.
Pas santé mentale.
Méditation.
Non. Les mots croisés.
Les jeux.
Non. Oui. Lesquels?
Des jeux de société de mémoire.
Non, jeux vidéo.
Jeux vidéo.
Ah, assez, ah, oui. Pas au point d'en faire une émission complète, mais.
Mais enfin, si, dommage.
Ah, bah mince, alors.
Il faut appeler Sigrist.
C'est quoi votre jeu préféré?
J'en ai beaucoup.
Red Dead Redemption.
Par exemple. Okay. Il y a le nouveau qui va sortir.
Ouais, qui sort là tout de suite.
C'est vachement bien. Parce que c'est une sorte de balade de Lonesome Home Cowboy.
C'est quoi le principe? Faut tuer des gens?
De temps en temps, oui, parce que c'est le principe de la survie dans le Far West, cette époque-là, mais aussi des animaux. Et puis, il faut surtout cueillir, collecter, fabriquer, construire. C'est ça ce qui est intéressant.
Qu'est-ce que Loïc Perron conserve et garde à son bord pendant toute une course, contrairement d'ailleurs à certains de ses camarades?
Son alliance.
Chien.
Son alliance.
Non. Du rhum.
C'est non. Paul, non.
J'espère que le rhum va passer un jour parce qu'on l'a sorti dans toutes les rêves.
Il s'astreint, il se force, il s'oblige à conserver sur son bateau des choses que les autres concurrents ne gardent pas forcément.
Non. Ses chaussures,
sa voiture,
non.
Des livres,
son slip, non.
C'est lié à l'alimentation, oui. des c'est sa survie.
Des croûtes de fromage,
non.
Des croûtons de pain.
De l'alcool, non.
Il garde obligatoirement, oui, les croûtes de fromage. Il garde obligatoirement des choses.
Les déchets.
Exactement.
Les déchets.
Ah, oui. Les restes.
Ça, c'est un point qui vaut 2.
Les déchets.
Je vous le dis tout de suite.
Oui.
Les restes, c'était bon.
Non, c'était pas bon. Les déchets, c'est moi qui les ai. Les restes, ça se mange. Là, c'est aussi bien les emballages que.
Surtout les emballages.
Vous mangez les restes maintenant, Nagui.
Évidemment. C'est même très bon.
Mais il est vrai que certains skippers. Le renom n'avait pas tout à fait cette belle.
Il balance dans la mer.
Non, mais ça s'arrange fort heureusement.
Quelle bande de
ça s'arrange pour tout le monde, j'ose espérer, même les marins pêcheurs.
Est-ce que vous constatez lorsque vous traversez, lorsque vous naviguez, il y a les histoires de conteneurs qui se baladent, qui sont totalement abandonnés, qui sont tombés de leur bateau. C'est vraiment ça?
Bien sûr que c'est vraiment ça, mais enfin, on n'en voit pas toutes les 5 minutes. Les conteneurs, non.
C'est fou.
Mais les fameux plastiques. On est tous avec des bouteilles en plastique devant nous, là, en ce moment.
C'est honteux.
Il faut que ça cesse.
C'est honteux.
Mais bien sûr. Il faut venir avec notre petite gourde à chaque fois, la remplir à la maison. Non, vraiment.
Je suis là.
Oui, justement, il y en a au moins une à table. C'est déjà pas mal.
Moi, je vais m'apprécier parce qu'en fait, la voile, ça m'emmerde. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi je suis là. J'ai fait les glénans, je vous rappelle, un peu de respect.
C'est pas vrai.
Merci.
Non.
Comme quoi.
Elle est passée devant Bagnole.
Toujours est-il qu'il faut faire, oui. Il faut essayer de la préserver un petit peu. C'est
le là, ouais.
Oui, bah ouais, soyez sympa avec moi.
Et la mer telle que vous la voyez évoluer, les océans, elle va mal?
À force de la traverser, oui, mais ça devient une évidence pour tout le monde, à force de le dire, à force de le répéter constamment. On n'est pas les meilleurs ambassadeurs, paradoxalement, pour ça. Pour aller sur l'eau, on a dépensé beaucoup d'énergie pour fabriquer des bateaux qui, eux-mêmes, en dépensent pas beaucoup, mais on en a nécessité beaucoup pour les fabriquer, ne serait-ce que des bateaux. Donc, on n'a pas le cul propre, bizarrement. Et c'est pour ça que j'ai du mal, non pas à m'engager à défendre cette planète constamment, puisque c'est un geste que chacun doit faire tout le temps, dans chacun de ses petits gestes.
Non, mais même si on n'est pas à 200% parfait sur l'écologie, ne serait-ce que chacun avoir un geste, ça suffit.
C'est surtout ça.
Ouais.
Mais on ne peut pas, la perfection ne peut pas exister, on est de toute façon malheureusement l'espèce la plus nuisible de cette planète.
On est dans un studio avec l'électricité, on consomme.
Comme des dingues.
Voilà, c'est ça.
On est nuisible, dès notre naissance on l'est, de toute façon.
On s'envoie des mails, donc là aussi on
lit. Et puis en plus, heureusement qu'on ne les lit pas tous.
À quoi s'oblige Loïc Perron lorsqu'il croise des gens qu'il ne connaît pas bien avant une course?
Il dit bonjour.
Il dit bonne chance.
Il souhaite bonne chance.
Il les embrasse.
C'est marrant parce que je ne sais même pas.
Il les rencontre, il les frappe. Il les serre dans ses bras.
Loïc vient de dire qu'il ne connaissait pas les réponses. Hein.
Oui.
Non mais c'est vrai, c'est vrai.
Il leur fait l'amour.
Il donne un petit conseil.
Ça, je connais la réponse.
Au contraire. Il évite quelque chose.
Ah, il évite la fraternité parce que c'est des concurrents et que c'est la course.
Non, il ne regarde pas dans les yeux.
Non.
Parce qu'il est lâche.
Non.
Il ne les embrasse pas.
Ça, je ne le savais pas. Ah, mais...
Les maladies. Ah, ne pas choper la crève.
Hein. Il est vrai qu'on
le point, il est pour moi, là.
Non, j'ai commencé.
Pas du tout.
Parce qu'il ne les touchait pas et j'ai pas fini ma phrase.
Non, t'as rajouté, il ne les embrasse pas, je dis, en effet.
Il ne les touche pas.
Or, on le sait, la manière d'attraper le plus de maladies, c'est de serrer les mains.
Exactement.
Plus que de faire des bises.
Barack Obama, pendant toute sa présidentielle, à chaque fois, vous voyez, il ne serre jamais de main.
J'ai pas fait gaffe. Ah non, j'ai pas fait gaffe à ça.
Toujours. À la ricaine, hop.
Un check.
C'est surtout un check. Toujours.
Je me suis posé la question en voyant Kylian Mbappé hier à Bondy, qui serrait dans ses bras plein de gamins qui checkaient comme ça. Je me suis dit.
Évidemment, c'est ce qu'on fait.
Ça va être compliqué à gérer. Est-ce qu'il se désinfecte tout de suite après? Parce que lui, il peut pas être malade.
Il paraît qu'il fera pas le prochain match. On a appris ce matin.
Non, ça serait bien dommage parce qu'on voit bien la différence entre quand il est là et quand il n'est pas là. Loïc Perron, vainqueur donc de la dernière route du Rhum, totalement légitime pour vous retrouver à écrire la préface d'un très bel ouvrage publié chez Gallimard, collection Voile Gallimard, signé Didier Ravon, La route du Rhum, 40 ans de légende. Et dès le début de votre justement de votre préface, vous expliquez la naissance de cette course. Et en fait, c'est par réaction contre les Anglais.
Ah oui, pour une fois qu'on les a battus. Les Anglais ont inventé pas mal de choses.
La course en solitaire.
Oui, la conduite à gauche, enfin pas mal de choses bien aussi. Et de la course en solitaire en 1960, première transat anglaise. Et il y a un petit Français qui est dedans, c'est pas Tabarly. En 64, Tabarly gagne la deuxième édition de la transat anglaise. Je vous la fais courte. En 76, Alain Colas arrive avec un monocoque immense. Vous vous souvenez de ce bateau? 72 mètres de long, club Méditerranée. Là, les roses bifs.
72 mètres.
Mais oui, 4 mâts. C'est devenu le phocéat d'un tapis après.
Un stade de foot, quoi.
C'était encore beaucoup plus grand. Il était tout seul là-dessus.
Non, c'est 100. C'est 100 mètres de long, un stade de foot.
Et c'est là qu'il limite à 60.
Et c'est là où les Anglais se disent, ah non, c'est beaucoup trop grand. Ces Français sont complètement fous. Ils n'avaient pas tort, d'ailleurs. Ils se disent, on limite pour la prochaine édition qui aura lieu donc en 80. On ne fait que 60 pieds, c'est-à-dire 18 mètres de long. Et les Français saute sur l'occasion en se disant, nous on va organiser une transat solitaire sans limite.
Ce livre a le mérite en tout cas de redonner à Florent de Kersauzon l'origine de l'idée de la route du Rhum, dont il a été légèrement dépouillé par des personnes qui ont déposé en son nom le titre et récupéré toute la com autour. Enfin, c'est lui qui a eu l'idée de dire, et faisons une course, nous, tous les 4 ans, avec nos limites, justement.
Comme souvent, les bonnes idées sont partagées par plein de personnes, et puis il y en a toujours une.
Mais il y en a qui les déposent
plus fourbes que les autres.
Il y en a qui les déposent, il y en a qui les déposent.
Plus visionnaire, peut-être. Voilà. Mais c'est pas trop le débat. C'est vrai qu'il a.
Mais il y a eu procès quand même.
Il a avalé un coup d'œil apparemment, mais je connais pas trop le détail. Mais Didier Ravon, l'auteur, nous en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ça existe. Ça existe tous les 4 ans et depuis 40 ans, mais à chaque fois, des histoires étonnantes qui ont fait que c'est devenu une course légendaire. C'est la seule aussi. C'est la seule course en solitaire.
Comment est-elle devenue légendaire, cette course?
Pour plein de raisons. Plein de raisons qui ne sont pas écrites par l'organisateur, bien sûr, qui sont écrites par les acteurs eux-mêmes. Alain Colas, on en parlait à l'instant, disparaît pendant cette route du Rhum. Gainsbourg avec Alain Chamfort en fond, voilà ce qu'on est en train d'entendre. Et personne ne savait vraiment ce que c'était que Manu Riva. Ouais. Alain Colas était déjà quand même quelqu'un de très connu, ancien équipier de Tabarly. Il disparaît. Une disparition, il n'y a rien de plus joli, j'oserais dire, pour un marin.
Mystérieux.
Un marin ne meurt pas, il disparaît. Donc ça laisse encore des traces dans les neurones des terriens, forcément.
C'est, en plus, comme c'est raconté dans le livre, c'est absolument passionnant parce qu'à la fois, il y a. On revit presque minute par minute ce qui se passe, avec ce manque d'informations. Et avant même qu'il y ait la chanson, pardon, mais dans l'actualité, moi, ça m'avait marqué quand même mon enfance, ce côté. Un navigateur disparu. Il faut qu'on le retrouve, il n'y a plus aucune trace. Et puis on retrouve, mais dans des conteneurs en fait, parce que lui avait déchargé, c'était quoi, son canot de sauvetage ou sa balise argot. Enfin, on trouve du matériel finalement qu'il n'avait pas emporté avec lui.
Pas ça.
C'est dans le livre.
J'aurais peut-être dû lire la totalité, mais j'ai toujours pas. Mais je l'ai reçu il y a 2 jours, en fait, c'est vrai.
Ça, Didier, vous confirmez, Didier. C'est dans le livre. Comme quoi, tout n'était pas à bord, on n'a pas de nouvelles. Et puis surtout, ce qui est dans le livre, c'est que le bateau était quand même dans un sale état, le bateau d'Alain Colas.
Oui, parce qu'il avait déjà fait un grand tour du monde en solitaire. Ce bateau s'appelait Penduick, c'était le trimaran de Tabarly en 68, qui était déjà révolutionnaire.
Il est repeint, ressoudé,
il est en aluminium surtout, l'aluminium c'est relativement poreux, c'est pas tout à fait le matériau idéal à l'époque, en tout cas pour être sur la mer, salée. Il y a de l'électrolyse, il y a plein de choses, donc il est fatigué, clairement.
Il y a des litres d'eau dans les flotteurs, enfin il y a tous les signes.
Tous les bateaux ont une
galère,
certaine
quoi.
Tendance à garder l'eau qui rentre à l'intérieur, on n'est pas toujours très étanche, mais là, dans le cas présent, c'est une grande boîte de conserve de 20 mètres de long.
Comme Daniel.
Daniel, c'est très bien.
Je ne voulais pas citer lui, d'ailleurs.
Ça dégouline.
Et puis, il y a évidemment la légende de la disparition d'Alain Colas. Il y a ces fameuses, et là aussi c'est un chapitre dans ce livre, 98 secondes séparent deux concurrents.
Exactement. On est 23 jours après le départ. Il y a un petit peu de position balancée par radio, mais à l'époque on n'a pas encore les balises de positionnement. Elles n'arriveront qu'un an après. Et on sait que l'un des favoris, Michel Malinowski, est sur un monocoque très long, les bateaux qui, théoriquement, gagnent un peu les courses, qui sont plus fiables. Monocoque, donc une seule coque. Et il arrive vraiment en tête, c'est vrai, au large de la Guadeloupe. Mais derrière, il y a une toute petite libellule jaune, trimaran, à trois coques, qui commence à lui remonter dessus. On passe sous Basse-Terre, parce que l'obligation de la route du Rhum, depuis toujours, c'est de faire le tour de la Guadeloupe, pour l'honorer. Et on passe sous Basse-Terre, et là, il n'y a pas de vent. Je sais pas si vous voyez la problématique des îles, quand on arrive d'un côté, c'est la pétole, c'est la partie sous le vent d'une île. Et là, le petit trimaran commence à rattraper le monocoque, se refait dépasser, c'est une bagarre insensée pendant des heures. Et enfin, on passe le canal des Saintes, le monocoque est encore en tête. Le petit tri appuie comme un dingue, et le double est fini 98 secondes devant. Le petit trimaran, c'est Mike Birch, un Canadien.
98 secondes.
Après 23 jours.
Sur 23 jours.
Voilà pourquoi.
C'est extraordinaire. Sur 23
jours. Et surtout, un petit bateau jaune qui dépasse un bleu, il y a toute la couleur, il y a un trimaran, trois petites coques de 2 tonnes.
Il vous plaît bien. Il vous plaît bien ce bateau jaune parce que vous l'avez récupéré et vous allez, enfin, vous allez vous aussi vous retrouver là pour cette nouvelle course sur.
Parce que ce fameux Mike Birch, ce Canadien qui gagne cette route du Rhum il y a donc 40 ans maintenant, était un illustre inconnu pour ceux qui ne connaissaient pas très bien le bateau, mais il avait déjà fait pas mal de choses intéressantes, gagne cette course là-dessus. J'ai eu la chance 2 ans plus tard de le rencontrer et de faire des courses contre lui, puis quelques années plus tard de naviguer et traverser l'Atlantique avec lui. Ça a été mon maître Jedi. Ça a été ce monsieur qui respectait, il n'a jamais chaviré, tout comme moi d'ailleurs. Et c'était, moi j'ai toujours comparé les deux personnages importants de ma carrière, ou même c'est Tabarly d'un côté, le chêne, et Birch de l'autre, le roseau. La femme nous indique que le roseau est souvent vainqueur, pas toujours dans le cas de Birch d'ailleurs, parce qu'il a gagné qu'une seule course dans sa carrière quasiment. Alors que Tabarly en a gagné beaucoup.
Mais de quelle manière
Enfin, de peu quand même.
Exactement. Mais c'est très juste parce que à 98 secondes près,
on retient quoi ?
L'avenir des transats aurait pu changer encore, parce que la victoire d'un monocoque aurait quand même malgré tout changé le cours des choses momentanément. De toute façon, les multicoques étaient par nature beaucoup plus rapides, mais à l'époque, on mélangeait tout aussi, c'est ça ce qu'il faut dire. Maintenant, on a des classes de mono, de multi, de grands trimarans.
Il y a des catégories, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment des règles évidentes sur la différence de rapidité entre monocoque, multicoque et sur l'importance de la taille du bateau sur sa victoire ?
Ce ne sont pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux, mais il est vrai qu'il vaut mieux quand même avoir un plus grand bateau, c'est normal, physiquement ça va forcément plus vite, c'est plus stable, mais c'est difficile à mener en solitaire.
Ce qui a été le cas de votre victoire il y a 4 ans.
Il y a 4 ans, exactement. Pourquoi un monocoque va moins vite qu'un multicoque, ou allait moins vite, pardon, c'est essentiellement parce qu'un monocoque trimballe du plomb pour être stabilisé, tout simplement. On alourdit un bateau pour faire en sorte qu'il ne chavire pas, alors qu'un multicoque n'a pas besoin de quilles, il a des flotteurs sur lesquels il s'appuie. Voilà la première raison physique.
Quand vous avez le bateau que vous allez piloter dans quelques temps, mesure quelle taille ?
12 mètres.
12 mètres.
C'est tout petit, c'est la taille minimale pour participer au transat.
Donc vous êtes sur ce multicoque jaune de 12 mètres, seul à le diriger, seul à le manipuler.
Et ça, c'est pas un exploit.
Mais l'exploit, c'était quand vous étiez sur 40 mètres.
Oui, enfin sur 30 et des brouettes. Je n'ai même plus la longueur d'ailleurs.
Je crois qu'il faisait 40 mètres, il me semblait.
Non, moins que ça. Banque Pop, je demande à Didier.
Ah, mais c'est pas si formidable.
C'est pas terrible en fait. non, mais 31,5, bon, ça doit être.
Toujours dit que vous êtes sur un bateau d'une trentaine de mètres, seul.
Ça,
est-ce que là, l'exercice, ou même lorsqu'il faisait 70 mètres pour reprendre l'autre géant, est-ce que c'est pas plus difficile d'avoir
beaucoup
un bateau immense sur lequel il faut cavaler physiquement, être présent partout, que d'être sur un petit qui
va
vite?
Beaucoup plus, je le dis souvent, faire du bateau, c'est pas compliqué. Traverser l'Atlantique, tout le monde le fait tous les jours.
C'est tout droit, quand j'ai une course à faire là-bas, moi.
Oui, vous y allez. Vous n'hésitez pas. Et en équipage, en tout cas, en solitaire, c'est déjà un petit peu plus complexe. En course, ça l'est vraiment. Et en multicoque, ça l'est définitivement. La grande difficulté de la voile en course, c'est du solitaire en multicoque. Pourquoi ? Parce que ça peut chavirer. Ah oui. Et ces bateaux-là sont plus stables à l'envers qu'à l'endroit. Mmh. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a des cheveux blancs, un peu comme vous, monsieur Helgo. Très, très jeune dans notre carrière. Parce que c'est super stressant. Et il est vrai que la taille des bateaux les rend un peu plus stable, donc un peu moins volage, mais physiquement complètement délirant. Et il y a 4 ans, donc, en hommage à Mike Birch, je voulais faire cette route du Rhum sur ce petit trimaran de 12 mètres.
Dans des conditions très particulières, c'est-à-dire avec
comme
des
on
outils
faisait il y a 40 ans.
Au sextant, en vous fiant au soleil, aux étoiles, à la lune, que sais-je, à l'ancienne.
Avec des cartes papier, avec ce que j'avais sous la main quand j'ai fait mes premières transats à 19 ans. Il n'y avait que ça, les GPS n'existaient pas.
Non, mais pourquoi se rajouter des contraintes c'est une question d'éthique.
Non, c'est juste pour avoir le plaisir de renouveler, le vertige de l'incertitude. C'est ce que je dis tout le temps. C'est le petit mot que j'ai trouvé.
Nous, c'est tous les jours.
Bandez-vous les yeux à ce moment-là. Vous rajoutez des trucs dingues.
Le bonheur de la relative lenteur d'il y a 40 ans fait qu'on avait justement le temps de ne pas trop savoir où on était. C'est impossible à faire aujourd'hui, évidemment. Les bateaux vont 3 à 4 fois plus vite aujourd'hui. Aucun autre sport, aucun autre engin de transport humain ne va 4 fois plus vite aujourd'hui qu'il n'allait il y a 40 ans. Aucun autre. une fusée, une formule, un train, une voiture, un avion, n'allait pas quatre fois moins vite il y a 40 ans. Seule la progression sidérante a été faite dans le domaine de la voile, de compétition et même de croisière. Et donc, quand on a la chance d'être un acteur témoin de cette évolution depuis 40 piges, c'est vachement sympa de rééclairer un peu l'histoire pour mieux voir l'avenir. C'est ça l'idée.
Et puis, ça fait la différence, j'imagine, entre navigateurs.
Ça fait, alors.
Est-ce qu'il y en a vraiment qui seraient complètement inapte ou incapable de...
Bah, j'en suis, moi, je ne suis pas tout à fait capable de revenir à ce que je savais à peine faire il y a 40 ans, mais c'est ça tout le bonheur, de réapprendre justement à manier ce fameux sextant dont même le capitaine Haddock ne savait pas trop comment faire.
Parce que c'est toujours vous avez des références pour naviguer,
oui, toujours,
vous
oui. Bah, lui, il se trouvait toujours au beau milieu de la basilique Saint-Pierre de Rome. Monsieur Dupont, découvrez-vous, tu sais.
Exact.
C'était ça l'idée.
Les références qui vont aimer...
Qui me vendent droit au cœur, mais c'est les Dupont qui s'étaient trompés.
Bien sûr.
En l'occurrence.
Ah oui, c'est vrai.
Oui. C'est Haddock qui se moque d'eux en disant, messieurs, d'après vos calculs.
Ah, je croyais que c'était d'après mes calculs.
Non, d'après vos
calculs. Merci, monsieur.
Docteur S. Tintin à côté, là. Père Albert, la route du Rhum est forcément un succès.
Oui, Albert va dégager, je prends sa place. Mais bien sûr, Nanguy. Tout d'abord, la route du Rhum.
Merci pour cette introduction.
La route du Rhum nous interpelle de par sa portée métaphysique. L'homme, comme l'a dit Pascal, le philosophe, hein, pas votre ami Obispo, Nanguy, ni Pascal le grand frère, l'amant de Daniel Morin. L'homme,
ah ouais,
je cite donc Pascal, confronté à l'immensité des océans ou penché sur une goutte d'eau, l'homme est aussi incapable de voir le néant d'où il est tiré que l'infini où il est englouti. Fin de citation. Et là, je vois, on ferme sa gueule. Hein,
ouais, parce qu'on n'a pas compris.
Je poursuis. Donc, la route du rhume, c'est aussi une course héroïque. La quête du Graal des navigateurs, comme Loïc Perrin. Coucou, Loïc. Moderne chevalier des mers, toujours prêt à affronter tempêtes et ouragans. Aussi, n'ai-je point compris, Nanguy, vos réticences ce matin, quand JNB, notre rédac-chef, vous a annoncé la venue de Loïc Perrin. Loïc Perrin, ras-le-bol de Loïc Perrin, on le voit partout. Il n'y a pas que lui à s'engager dans cette course, ils sont 150. Et puis, c'est son frère Bruno qu'il fallait inviter. Mais, mon maître...
Il aurait beaucoup plus parlé, oui.
Oui, beaucoup plus bavard. Mon maître, grand amphitryon des duos mythiques. Ah, Black M et Anne Romanoff, je me souviens. Désolé, mais cette année, Bruno ne prend pas le départ de la route du Rhum. Mais non, d'une felouque pourrie. Bruno est beaucoup plus sympa et surtout beaucoup plus modeste et beaucoup plus étanche que Loïc. Puis, tu as vu le nom des bateaux engagés dans la course du Rhum ? Massif, Banque Populaire, Charal, Maître Coq, Fleury Michon, le Choix Funéraire. Ah, ça fait rêver du grand large tout ça.
Il y a un bateau qui s'appelle le Choix Funéraire.
Oui, ça on se croirait dans un spot de pub sur France Inter juste avant les infos. Voilà, cher Loïc Perrin, comment se prépare la bande originale. Certes, ces noms de navires manquent de poésie, mais dans la catégorie, puisqu'on évoquait les catégories, classe 40, il y a tout de même un bateau qui s'appelle Esprit Scout.
Et c'est pas vrai.
Mais c'est la vérité, Esprit Scout. Et je ne peux vérifier. Je ne peux m'empêcher de penser avec émotion à son skipper qui, pendant des jours et des nuits, contraint à la plus extrême des solitudes, crispera sur sa barre ses mains burinées et luisantes de gel Neutrogena, formule norvégienne, tout en fixant le grand mât fièrement dressé, les vergues tendues. Voilà, je profite de l'antenne Nanguy pour informer et inviter les jeunes en recherche qui nous écoutent. Dès ce soir, dans ma camionnette bâchée cuir clouté noir, garée exceptionnellement près du grand lac du Bois de Boubou, j'organise avec l'abbé Cotard et mes scouts marins un stage initiation voir les vapeurs sur monocoque, multicoque et gonocoque. Bonne fin d'émission.
Merci Albert Algout.
Vous en prie. Vous en prie. La bande originale.
Quel est le rétro-planning de votre route du Rhum, Loïc Perrin ? C'est-à-dire que là, vous êtes dans quel état d'esprit ? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent ?
Vous partez quoi, le 4 novembre ?
4 novembre à 14h, départ au large de Saint-Malo.
Mais c'est demain le 4 novembre.
Ouais. Exactement, c'est demain. Ça nous saute à la gueule là, maintenant, les dernières journées. Mais une fois de plus, là, cette année, je suis donc sur ce petit trimaran de 12 mètres de long. Aucune pression, pas de sponsor particulier. Le bateau s'appelle Happy. Et j'ai offert cette histoire à une fondation, Action Enfance. Donc,
formidable.
Quitte à fabriquer une histoire à partager avec vous, autant qu'elle serve à quelque chose.
Pourquoi cette association, que défend-elle ?
Elle défend, surtout elle élève des enfants, des centaines d'enfants qui sont retirés de leur milieu familial par décision judiciaire.
Suite à une maltraitance.
Suite à des maltraitances, à des problématiques, d'accord. Mais ce ne sont donc pas des orphelins. Ils ont une famille, mais malheureusement, dans laquelle ils ne peuvent pas rester. Et l'intérêt, c'est enfin surtout le principe et la spécialité, j'oserais dire, de la Fondation Action France, qui célèbre ses 60 ans cette année. J'ai changé mon numéro, le petit happy porte le numéro 60, en hommage. Mais c'est surtout qu'ils gardent la fratrie, les fratries, ensemble, dans les villages, un peu partout autour de
c'est
la
formidable.
France.
C'est formidable.
Ce sont aussi des villages d'enfants.
Ce sont des villages d'enfants, exactement. Ouais. Et c'est un vrai bonheur de partager ça avec eux et donc d'embrasser justement des enfants. Et beaucoup vont venir à Saint-Malo et j'aurais pas peur du microbe. Il n'y a pas de problème.
Mais non, parce que vous savez que vous allez arriver en quelques heures. Donc
et
ça va.
Non, mais je vais mettre quelques jours justement. Alors le rétro-planning, oui, le 4, ça va être le départ. Le samedi, la veille, il y aura la sortie des écluses, qu'une sorte de grande cérémonie parce que les bateaux doivent sortir du port de Saint-Malo la veille au moins pour avoir le temps que les 124 concurrents, en fait, non pas 150, mais ça fait déjà trop.
J'ai le droit à l'erreur.
Oui, pas à ce point-là. Et puis, les quelques jours qui précèdent, il faut partager, tout simplement. C'est ça le principe, bizarrement, des solitaires sur l'eau. C'est qu'il faut commencer à partager avant, et pendant, bien entendu, avec beaucoup de monde. On attend 1,5 million de personnes. C'est sidérant, hein, tous les 4 ans. C'est plus que le salon de l'auto. En une semaine, c'est incroyable,
Loïc,
ce succès populaire.
Tout à l'heure, vous avez dit à propos d'Alain Colas, c'est formidable, il a disparu. Quoi de plus merveilleux pour un navigateur de disparaître plutôt que de mourir, entre guillemets, tout simplement.
C'est plus élégant, quitte à mourir, autant disparaître.
C'est ce que disait Dupont de Ligonnès aussi.
Mais
je suis pas mort.
Bien sûr, vaut mieux l'éviter ou le plus tard possible.
On est d'accord. Ouais. Mais est-ce que dans un coin, quand même, de vos précautions, des gestes que vous faites, vous pensez à l'accident? Vous pensez au danger que vous risquez?
Dans toute la période de préparation et encore ces quelques derniers jours, je ne pense qu'à ça tout le temps, quelle que soit la taille d'un bateau. Je sais que je suis sur un engin un peu compliqué, la manière de le mener aussi. C'est comme sur une voiture, plus on va vite, la vitesse est un facteur aggravant. Mais il faut, c'est les moins de petits détails et puis c'est la manière de sentir un bateau, de se déplacer sur un bateau. Ça ne veut pas dire que je vais m'attacher tout le temps. C'est pas toujours ce que j'ai fait, d'ailleurs. Parce qu'il y a des moments où la rapidité d'exécution...
Attends,
ça dépend. On peut s'attacher dans une voiture, il faut le faire. C'est évident, parce qu'on ne va pas aller dans le coffre toutes les 5 minutes pendant qu'on conduit. Alors que sur un bateau, il faut se déplacer, parfois sur un court de tennis. Et la vitesse d'exécution d'une manœuvre est beaucoup plus synonyme de sécurité que la lenteur.
Alors ça, c'est la prudence. Mais y a-t-il ce qui n'est pas du tout rationnel?
Des dangers aléatoires
Une peur.
Ah bien, mais heureusement, oui. Si je n'ai jamais chaviré en 52 traversée d'Atlantique, la plupart, enfin, dans une grosse partie en multicoque en solitaire.
Surtout ne pas être suffisant en disant ça n'arrivera jamais.
C'est du bois, votre truc, là, je sais pas.
C'est de l'agglomération.
Touché, Albert.
Bien sûr que ça peut arriver. Particulièrement sur un tout petit bateau comme le petit Happy, d'ailleurs.
C'est ça.
Mais c'est essentiellement, il faut avoir une certaine, on a un seuil de tolérance relativement haut.
Pourquoi vous portez pas des petits brassards comme les enfants?
C'est vrai? J'ai perdu le mien, j'avais un petit dauphin avec l'œil qui se remplissait avec une bille en acier.
Ah oui.
Et est-ce qu'avec l'âge, le temps aidant et passant, vous avez davantage peur?
Non, pas vraiment, mais j'ai une grande conscience des dangers éventuels et surtout de tous ceux dont je n'ai pas conscience. C'est ça ce qui est intéressant. C'est tellement aléatoire, tout peut arriver à tout moment. Donc on s'attend constamment à un emmerdement un peu plus important, qui peut être dramatique, pourquoi pas, mais il faut passer à travers, il faut composer, il faut faire le roseau justement. Je ne pense pas que le chêne soit toujours le vainqueur dans le domaine-là.
Vous parlez d'emmerdement, voici un. C'est Guillermo Guise.
Bravo. Ça va les amigos? Ça va, ça fait longtemps.
Ah bah t'es là.
Oui, je suis là. Hier j'écoutais France Info dans mon pédalo. Et vous avez entendu beaucoup d'homophobie à Paris en ce moment? D'habitude elles viennent plus tard les vannes sur Daniel Morin. Oui je sais, qu'est-ce qu'il a encore fait le grizzly de Fleury? Il a encore défié la loi? Eh bien non, une fois n'est pas coutume, j'ai rien de spécial à dire sur Daniel. Si ce n'est que pendant ces quelques jours d'absence, il m'a quand même un peu manqué son fumet. Inimitable fumée. Non, blague à part, ça me rend dingue, les agressions à Paris, ça me rend vraiment dingue. Quoi. Je peux vous dire qu'à New York, ça se passe pas comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Amérique, les homosexuels, ils sont armés. Voilà, donc déjà, ça...
C'est vrai.
La Gay Pride, c'est une autre ambiance. Ça va aller pédé, on s'amuse sur son char. Ok, pardon, désolé. Voilà, je dis pas que c'est la solution, mais bon, ça peut être aidé.
Non, c'est pas la solution.
C'est pas la solution, ça peut être aidé. Mais ça me rend fou, vraiment, les agressions homophobes, moi, ça me donne envie vraiment de crever dans un élevage d'autruches. Et
pourquoi elle?
Pourquoi pas?
Mais je sais que j'ai convaincu, évidemment. Ouais. J'imagine que si vous écoutez une radio comme France Inter, bon, c'est que vous êtes plus en âge d'agresser qui que ce soit. C'est vrai que le profil type de l'agresseur, c'est rarement boîte à pilules, fausse hanche et poster de Léon Zitrone. C'est pas vrai, Marcel.
Affirmatif.
Affirmatif. Par contre, ça peut arriver d'avoir dans son entourage, c'est vrai, dans son entourage un pote ou une connaissance qui est un peu à cheval sur les principes de l'hétérosexualité. Une maman, un papa, deux trous pour l'une, un trou pour l'autre. Enfin, la configuration Stoney-Chardin, évidemment, comme on dit dans la biologie de la reproduction. C'est là que ce biais prend tout son sens, naturellement. Parce que moi, j'avais un pote d'enfance qui tenait souvent comme ça les propos homophobes, tu vois, les trucs vraiment, genre, moi, Elton John, j'aime pas tout et tout. Enfin, vraiment choquant, quoi, les trucs. Non, il disait le popper, c'est cher pour ce que c'est. Enfin, je veux dire, vraiment, on était à deux doigts de l'illégal, quoi. Et pourtant, avec mon pote d'enfance homophobe, eh bien, ça servait strictement à rien d'aller sur le terrain de la tolérance et de la compassion pour le raisonner. Je me rappelle, je disais Nagui. Je disais Nagui. Tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit de vivre une romance. Faut respecter la différence. Apprendre à lui donner sa chance. C'est pas comme ça que je l'aime, la France. Moi, ça l'a pas touché, évidemment. Grégoire, si, évidemment, il en a fait une chanson pour le plus grand bonheur de Satan. Mais, mon pote d'enfance homophobe. Pour le convaincre d'arrêter d'emmerder les homosexuels dans la rue, j'étais obligé d'utiliser une logique qui comprenne lui, en fait. Vraiment, d'abord, je lui ai dit, voilà, écoute, au fond, tu sais, moi, je suis comme toi, la bite, c'est pas mon truc. Honnêtement, dans le sens où j'aime pas avoir un pénis tout près de moi, comme ça. Dans le métro, je suis obligé, c'est autre chose. Mais là, par exemple, si Loïc Perron sortait son chibre à 20 cm de mon sourcil en me disant, non, vas-y, continue, t'inquiète pas, y a pas de problème. Je dirais, non, Loïc, pas ici, pas maintenant.
Non! Ça va pas être possible. Il y a des caméras. Pardon.
Dans le sens où moi, mon sgeg, c'est comme mon enfant, j'aime bien le mien, mais un peu moins celui des autres.
C'est mignon.
Voilà, je suis pas très curieux au poulet non plus. C'est pas pour ça que je vais faire le tour du Punjab pour aller ratonner de la volaille. Et mon pote, il m'a fait, j'ai rien compris à ton argument. Et j'ai dit, écoute, j'avoue qu'en effet, c'était pas hyper clair. Mais enfin, tu m'aurais donné 2 heures de plus. Mais c'est vrai que ça l'a ébranlé. À ce moment-là, c'est là que j'ai porté les stockades. L'argument massif, je lui dis, mec, chaque fois qu'un homme couche avec un homme, c'est de la concurrence en moins sur le marché de l'hétérosexualité. Hein. C'est vrai, toi et moi, on a intérêt à ce qu'il y ait le plus d'homosexuels possible. S'il reste que nous deux sur la terre à aimer les uns, je peux te dire qu'Emily Ratajowski, elle sera bien contente de nous envoyer un DM sur Insta. Vraiment, carrément. Ah ouais. Alors arrête de violenter tes alliés objectifs. La prochaine fois que tu croises un petit couple qui t'a rien fait, tu fais un sourire et tu dis merci, il m'a dit Ernesto. On en reparle après l'émission.
Merci.
Bonne émission. Bravo.
Est-ce que vous embarquez de la musique, Loïc Perron, sur le bateau ?
Alors, sur les bateaux qui vont très vite et très gros, comme j'ai l'habitude de faire depuis pas mal d'années, multicoque particulièrement, non. De moins en moins, parce que le bruit du bateau est indispensable à la survie, justement, et à l'efficacité. Ah ouais.
Parce qu'on repère le moindre défaut.
Mais c'est surtout parce que c'est très bruyant, extrêmement bruyant. Et quand on est en solitaire, si on commence à mettre des écouteurs, parce qu'il y a plein de manières de gommer les bruits, là, on n'entend plus les bruits du bateau. Et les bruits sont indispensables, vraiment, à la manière de mener un bateau comme ça. Sur un bateau beaucoup plus lent.
Y compris, déceler un bruit anormal.
Exactement. Un bruit et un mouvement qui ne... Donc, s'il y a une dichotomie entre les deux, c'est que justement, il se passe un petit truc. Okay. Donc, on passe... C'est nuit et c'est jour.
Non, c'est intéressant de savoir que la vigilance va avec le bruit.
Essentiellement.
S'il y a un bateau derrière qui klaxonne...
Ne serait-ce que ça, mais c'est vrai. Moi, je me suis fait réveiller par des cordes de brume, heureusement, et qui passaient pas loin. À l'époque, on n'avait pas des détecteurs de radar, des choses qui étaient... Et heureusement. Et l'oreille est l'instrument le plus indispensable à bord d'un bateau pour la sensibilité de la feuille elle-même, pour la force du vent, pour l'oreille interne, pour l'équilibre. Et justement, pour les silences, parfois. Vous savez, quel est le bruit qui réveille le marin en solitaire sur un multicoque ?
Le silence. Total.
Pour quelle raison ?
Parce que c'est anormal.
Précède la tempête ?
Non. Pour quelle raison ? C'est anormal, oui. Pourquoi ?
Il n'y a pas de vent.
Quand d'un seul coup, il n'y a plus de bruit.
On n'avance pas.
À l'intérieur d'un bateau multicoque, je dis bien.
C'est l'eau ?
C'est qu'on est en train de chavirer.
Il y a de l'eau.
C'est que la coque ne touche plus l'eau. Et on est en train de chavirer.
Ça veut dire peut-être aussi qu'on est mort ? Si on n'entend plus rien.
Et tous les jours,
est-ce que tu sais, toi, ce qui se passe
aussi. Mais oui, exactement. Est-ce que c'est vraiment silencieux ?
Il a fait des expériences.
J'en reviens de loin, je peux vous dire.
J'ai une question par rapport à pour aller de la vitesse, plus la vitesse augmente, est-ce qu'on prend encore du plaisir à être sur la mer quand ça va aussi vite
Ah oui.
Oui,
oui, oui. Mais il est vrai.
On profite encore de la mer, quoi
C'est pas faux. C'est vrai qu'on a du mal à, de temps en temps. Enfin, je me surprends de temps en temps sur l'eau à me dire tiens, je vais regarder la mer. C'est assez drôle, hein, parce qu'on regarde la vague, on regarde le prochain obstacle, tout comme on regarde pas le paysage sur une voiture, on regarde le prochain panneau, la prochaine ligne droite, ou le prochain danger. Et le prochain danger.
On regarde pas les couchers de soleil, quoi. Non. On va pas voir à l'horizon.
C'est aussi la raison pour laquelle j'ai envie de renaviguer un petit peu lentement.
Oui, le côté contemplatif.
Parce que là, tout va se passer un peu au ralenti pour
moi. Mais alors, pardon, ça veut dire que vous partez perdant, mécaniquement.
Évidemment. Mais c'est un vrai bonheur. Je suis enfin sûr d'une chose au départ du transat.
On va garder cette phrase.
Non mais attends, c'est la première fois que je suis sûr de quelque chose. En tout cas, c'est la première fois que je suis sûr de perdre une course.
Ça s'arrose.
On n'est jamais, certain de la gagner, heureusement. Mais pour une fois que je suis sûr de la perdre, et surtout en étant le détenteur de cette course, et ça c'est joli.
Alors ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas une malice de votre part après l'avoir gagné, pour ne pas vous mettre de pression en disant je suis sûr de perdre là-dessus, puisque c'était ce que vous vouliez faire.
Exactement.
Il y a 4 ans, oui. Déjà, partir avec ce ce multicoque jaune, puisque la couleur est très importante, Happy, et qu'au dernier moment, vous avez été un peu le pompier de service en remplaçant un skipper qui s'était blessé, en récupérant le Banque Populaire qui faisait sa quarantaine de mètres, c'est
exactement.
Ça
exactement. Une histoire de dingue.
La musique chez vous, on va commencer avec ce titre dans les années 60. Le Miserere d'Allegri.
Là, t'as bien chaviré, là, déjà. Là.
Alors là, en fait...
Ouais, pourquoi ça,
nos enfants, enfin mes enfants, sont nés avec cette musique-là, tout simplement. Mais j'ai entendu...
Je te félicite.
Oui, merci, mon père.
Ça veut dire quoi, mes enfants sont nés avec cette
musique? Mes enfants... Alors, quand notre premier enfant, Marie, j'étais au large des îles Kerguelen, en train de faire le Vendée Globe, le tour du monde. Donc j'étais un peu loin, mais j'ai entendu la petite musique. C'était pas tout à fait en live pendant l'accouchement, mais pas loin. Et donc, voilà, on avait... C'était sympa,
Ah, c'est beau.
À chaque fois, mon épouse était avec sa petite cassette, particulièrement de musique classique. C'est joli pour naître, une musique comme ça. Oui. Pour mourir, je suis pas sûr, mais pour naître, c'est pas mal.
Ça peut aider.
C'est extrêmement religieux, c'est une croyance, c'est une...
Absolument pas. Je suis profondément...
agnostique.
Agnostique. Je peux tout mélanger ensemble, là, en ce moment.
Vraiment. On peut en discuter. Longtemps.
On pourrait en discuter. Non, mais j'ai été nourri par des jésuites, de bonne manière, j'espère, pendant au moins 2-3 ans du côté de Vannes.
Oui.
Et ils m'ont définitivement guéri de toute croyance.
Et 59, c'est votre année de naissance. Et quand on fait un peu l'arbre généalogique de la famille Perron, forcément, ça a grandi sur l'eau et ça a continué sur l'eau.
Depuis tout petit, on avait un papa capitaine au long cours,
ouais,
qui était commandant d'un des plus gros pétroliers du monde dans les années 80, même bien avant d'ailleurs. Et puis 5 enfants, 3 frangins, un frère aîné, vous en avez parlé habilement, mon grand frère aîné Bruno, Stéphane, le plus jeune d'un
très
an
gentil.
Moins, charmant jeune homme, et 2 petites sœurs jumelles. Et tout ce petit monde-là navigue tous les étés sur des petits bateaux de croisière, parce que mon père, qui est sur une usine flottante 9 mois par an ou 10, revient naviguer impérativement à la voile avec ses enfants.
Et d'où vient le cas de Loïc.
Ah, jolie anecdote. Il y a, souvenez-vous d'un monsieur qui s'appelait Bernard Matessier. Ça vous dit quelque chose, Bernard
Matessier,
voilà.
Oui.
C'est le premier Français vraiment qui fait un tour du monde en solitaire, qui a failli gagner la toute première grande course en solitaire autour du monde. Non pas le Vendée Globe, mais le Golden Globe, dont il y a un revival en ce moment d'ailleurs. Et ce monsieur qui est en tête de ce tour du monde, à l'époque, il balance des messages sur les cargos avec un lance-pierre. Hein. Il n'y a absolument aucune espèce. Il y a sextant, bien sûr, mais même pas de radio. Et t'as deux doigts de gagner ce tour du monde après 300 jours de mer. Mais il décide de ne pas revenir en Europe, mais il repart à Tahiti.
Il fait demi-tour.
Ça a été lui le tout
premier.
C'est
dingue, ça. Ouais.
Un autre mec, qui a été un peu son fan, c'est un monsieur qui s'appelle Loïc Fougeron, dont j'ai lu les aventures, voulait faire la même course, mais chaviré je ne sais combien de fois, que des galères sans arrêt. Et il avait un K à son prénom. Je lisais tout, moi, toute la littérature maritime depuis tout petit. Et ce K m'a fasciné, je l'ai rajouté très vite à mon C. Et à l'école, les profs me disaient, mais non, ce K, c'est pas sur un... Tu t'appelles pas comme
Loïc,
ça.
Loïc, ça s'écrit pas comme ça. Oui. Si, c'est Loïc avec
je me suis fait arrêter aux États-Unis plusieurs fois parce que je faisais la bêtise de m'enregistrer avec le K, qui correspond pas à mon passeport.
À l'état civil.
Allons-y.
Alain Gerbaud.
Ils sont pâtillés. Alain Gerbaud, c'était le dandy navigateur, un petit peu de cette même période, un petit peu avant, bien sûr.
Un peu avant. Oui.
Juste après-guerre.
Je pense que vous pourriez demander à changer votre état civil pour en venir au cas. Je suis sûr que vous faites une demande, vous l'obtenez.
Mais c'est noué, mais bon, c'est une coquetterie qui est assez sympa. Et j'ai rencontré ce monsieur Fougeron, je me souviens, il y a quelques années avant qu'il disparaisse au Salon Nautique. J'étais comme un
beau. Il est disparu au Salon Nautique?
Non, pas tout à fait. Ça peut arriver.
En 1989.
Ah oui, c'était sympa. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
Les Où?
Ah oui. L'album.
Ah, je sais pas lequel.
Quadrophénia. Il y a eu un film.
Oui.
J'ai découvert le film avec Sting.
Avec Sting.
Exactement.
Première apparition au cinéma de Sting, qui raconte la rivalité entre
les Mods et les Rockers à Brighton, les bastons des années 60. C'est un film exceptionnel. Et c'est un des premiers opéras rock des Who.
Ouais.
Et je suis tombé par hasard, et c'est donc pas en 89, mais j'ai réécouté beaucoup pendant le Vendée Globe. Mais ça a été ma première transat, la mini transat en 79. J'ai 19 ans, petit bateau de 6 m50, sextant, carte, lampe à pétrole. Un radiocassette et une cassette que je ne connaissais pas, que mon fiancé de l'époque m'avait prêtée ou donnée, Les Who, Quadrophénia, que j'ai vu en concert à San Francisco il y a 3 ans avec l'album Quadrophénia. Un vrai bonheur.
Génial.
Et Love Rain on Me, c'est en plus un joli titre, une chanson étonnante. Et puis Les Who, c'est Les Who. Quoi. Qui sont Les Who?
Et là, c'est un tour du monde.
Ouais, c'est votre premier Vendée Globe.
Oui. Dont je vous parlais un tout petit peu avec la naissance de notre premier enfant, avec la première fois que je vois, non pas des icebergs, mais en tout cas des gros, la première fois que je passe le Cap Horn. On est 13 au départ de ce tout premier Vendée Globe.
Ça fait beaucoup de premières fois.
Ouais. Plein de premières fois. Ouais. Première fois que je passe l'Équateur, première fois que je sauve franchement un copain, Philippe Poupon, qui était en train de chavirer au large de l'Afrique. Incroyable aventure.
Ce qui vous fait perdre.
Ce qui ne me fait pas gagner, ça c'est sûr, mais ce qui me fait pour rien au monde, il faut échanger ce type d'aventure. Ce n'est pas la place qui compte en bateau. Non, c'est ça qui est marrant.
Vous terminez deuxième.
Oui, derrière Titouan Lamazou.
Je me souviens, parce que ça aussi, ça avait été, c'est quelque chose quand même de frappant, de formidable. Je sais pas, c'est pas chevaleresque, c'est humainement incroyable.
Un sacrifice, presque.
Ouais, de se dire, c'est une compète. Non, mais Loïc, de votre point de vue, il n'y a pas de doute, mais encore une fois, du point de vue du spectateur.
Nous, surtout, qui sommes des salauds, lambda, qui n'est en personne.
Oui, c'est ça, mais ça,
il y a une compétition, il y a l'un des concurrents qui est en difficulté, celui qui potentiellement pourrait gagner s'arrête pour aller le sauver.
C'était pas le cas, j'étais pas du tout en tête au moment où je vais le sauver. C'est après que ça s'est un peu compliqué.
Vous êtes arrivé deuxième.
Oui, ouais. Et on m'avait redonné du temps, et avec ce temps de compenser, j'aurais pu éventuellement, et ça aurait été un peu pas très joli de gagner, pas en temps réel. Ça a été ça, un petit peu la petite problématique cérébrale que j'ai eu à vivre sur les
la
dernières
morale,
semaines.
C'était la morale de l'histoire.
En revanche, je vous racontais que vous avez passé beaucoup de temps sur votre Mac.
Oui.
Et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas fini gagnant.
Non, mais il est vrai que j'avais raconté que j'avais fait quelques milliers de réussites. Parce que ce tout premier Vendée Globe, on n'allait pas très vite. Hein, on est tout seul autour du monde. C'était une aventure incroyable. J'ai mis 111 jours, je crois. Donc,
110 jours, 110, 1 heure et 18 minutes.
Voilà, c'est ça. Et Titouan a dû en mettre 24 heures ou 48 heures de moins. Donc c'est un peu long, mais bon, une fois de plus, quand on a le... C'est une chance énorme, je le dis très souvent. Hein. Et on a une chance incroyable, c'est de choisir la manière de souffrir, d'accord ? Donc on n'a pas de raison de s'en plaindre, mais c'est un peu long, on est d'accord.
C'est
donc,
une passion.
Et le Macintosh, pour ne pas faire de la pub, mais j'adore, je suis Macophile forcément, c'était le tout premier Mac portable, on est en 1989, arrivé en Europe.
Génial.
Ils me l'ont filé, il arrivait d'Irlande directement, ça faisait 6,5 kg.
C'est ça, j'allais dire, oui. C'est une baloche. 40 fois plus lourd que ce que c'est
avec
aujourd'hui.
Avec un petit écran noir et blanc comme ça, mais on était fascinés par ce truc-là.
Et vous faisiez quoi des jeux ?
Et on faisait la nave surtout.
Ah oui.
C'était les tout premiers logiciels de navigation, les tout premiers logiciels de routage, et on recevait de l'information météo par Telex ou équivalent, c'était très très lent, ça arrivait goutte à goutte, il fallait être très patient, mais on pouvait commencer à travailler comme on le fait maintenant de manière beaucoup plus simple.
En 2012, vous écoutiez justement les jeux vidéo. Red Dead Redemption.
C'est Red Dead ça ?
Ouais. Non ? On s'est trompé ?
Ça se peut, mais ça m'étonne. Parce que pourtant je l'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Particulièrement en équipage, en solitaire, sur le. Oh, pas en équipage.
En équipage en solitaire.
En équipage en solitaire.
Le mec, ça y est, il a des amis.
Sur le Jules Verne.
Déménage,
le trophée Jules Verne. On est 14 à bord sur le plus grand trimaran du monde et on a battu le trophée Jules Verne, qui est le tour
45 jours, 13h et 42 minutes.
Il y a 4 ou 5 ans, c'était fabuleux.
Ouais.
Et là, en solo. Pardon, pourquoi je dis solitaire, ça devient une habitude. En équipage.
Parce que vous êtes déjà
là,
dans la course du mois de novembre.
On peut s'isoler justement de temps en temps grâce à la musique. Puisqu'on a confiance, il y a du monde sur le pont, il y a quelqu'un sur l'accélérateur et voilà.
Et vous vous décrivez comme un tyran démocratique.
Oui.
À bord.
Est-ce que c'est une leçon politique
un
ou un conseil, je ne sais pas.
Ouais. Racontez-nous quand même.
Sur un bateau, depuis toujours, on comprend très bien, vu de la terre et vu du bateau, la hiérarchie est totalement, non seulement acceptée, mais indispensable.
Oui.
La pyramide est totalement acceptée, mais indispensable. Ça veut dire que chacun accepte ses responsabilités, ce qui n'est pas tout à fait dans l'air du temps. On est plutôt dans l'ambiance de parapluie, on veut tout horizontaliser. Hors de question. Et c'est vrai que quand on a. Le meilleur apprentissage de la responsabilité, c'est d'abord de démarrer tout seul, souvent. De commencer avec des copains qui vous donnent un coup de main et de se retrouver tout seul responsable de la suite de l'histoire.
Bah déjà, on se crédibilise aux yeux de ceux que l'on va diriger ensuite.
Potentiellement. Et puis surtout, on a l'obligation de toucher à tout. Ouais. C'est vrai que je ne vais pas être patron d'un fast-food si je n'ai pas commencé à faire des frites.
Ouais.
J'ai horreur des fast-food, mais le management dans ce domaine-là n'est pas idiot. On ne peut pas être téléchargé ou du moins droppé sans aucune légitimité.
Suite à un diplôme et pas à l'artisanat et à l'expérience.
Ouais. Et après, il y a une grande responsabilité quand on est skipper, c'est vrai. Moi, j'aime bien être dirigé par des skippers, j'adore ça, je ne veux pas toujours être chef. Mais quand on l'est, le départ de Jules Verne dont je vous parlais tout à l'heure, il y a quand même le moment important, on est à Brest, on est la veille du départ, on regarde la météo, c'est en général en hiver, enfin c'est un peu tendu, on va faire un tour du monde à des moyennes colossales, et là il y a 12 femmes de marins qui viennent vous voir, une par une, en disant « plus le marin ramène ». Et donc bon, bah là on sait qu'on est patron.
Et vous gueulez sur le bateau ?
Jamais. Je suis l'antithèse de l'archaïsme et de la féodalité. D'autres skippers en sont spécialistes.
C'est peut-être pas en élevant la voix qu'on a le plus d'autorité, finalement.
Mais évidemment, dans plein de domaines, on l'a vu encore hier, c'est pas en élevant la voix qu'on va se crédibiliser. dans plein de domaines.
Capitaine Jean-Luc.
Capitaine Jean-Luc, si tu nous écoutes, arrête de faire du bateau, arrête tout. De toute façon, parce que t'es mauvais. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est même plus du mauvais exemple. C'est carrément dangereux.
Ouais.
Pour un équipage que d'avoir des capitaines dans
totalement.
Ce style-là. C'est
totalement.
Ça tout le truc. Et ben voilà. On en a l'exemple partout, et pas seulement sur l'eau.
Autre exemple, Didier Deschamps, dans sa manière de coacher et de diriger l'équipe de France.
Il faut être légitime, ouais. Il faut donc être passé par des moments dont chacun sait qu'ils vous ont forgé. Il faut accepter le fait...
C'est le choix des mots et parfois les silences, ouais, qui sont même plus forts que...
Je pense qu'il faut accepter le fait qu'on ne peut pas être bon partout, oui, mais qu'on n'a pas le droit d'être mauvais quelque part. C'est ça la responsabilité d'un skipper ou d'un chef d'entreprise, c'est tout. Il doit s'intéresser au travail des autres, pas à son boulot à lui.
En 2014... On n'a pas Pharrell Williams.
Bah, c'est le silence en 2014.
C'était le silence de 2014.
Oui, j'aurais bien aimé un petit Pharrell Williams, ça m'aurait fait plaisir.
Oui, oui, ça aurait été pas mal.
Bah oui, symboliquement pour Happy. Non, parce que on va parler évidemment de la route du Rhum et de votre victoire, surtout dans cette 7e route du Rhum, victoire qui tombe un peu de nulle part. C'est-à-dire que ça se précipite. Est-ce que vous avez douté entre laisser tomber votre bateau et remplacer ce skipper
Armel Leclerc,
sur Banque Populaire. Vous avez douté un dixième de seconde, vous avez dit non, il faut que j'y aille.
J'ai douté pendant une nuit, en fait. Mais l'histoire est un peu longue à expliquer, je vais essayer de vous la faire très courte.
S'il vous plaît.
Ok. Il y a 4 ans, je suis sur ce petit trimaran Happy sur lequel je suis cette année, d'accord ? En hommage à Mike, je veux faire cette route du Rhum à l'ancienne avec mon petit sextant, le bateau est tout jaune, on vient de le remettre à l'eau avec des copains, et je pars faire ma qualification pour l'Espagne. Ouais. La musique vient d'arriver, mais pas encore. Et j'ai mis 1 500 000 à faire au mois d'août 2014, avant cette route du Rhum, d'accord ? Au moment où je m'éloigne des côtes françaises, on est à côté de Belle-Île, là-bas, du côté de la Bretagne, coup de téléphone, j'avais encore un téléphone à bord. C'est l'écurie Banque Populaire qui m'annonce, on a un problème, allô Houston, Armel vient de se blesser, il faut que tu le remplaces. Et là, je vous...
C'est quoi ? Il faut que tu le remplaces. Eh bien, il n'y a que toi pour le remplacer. Plutôt.
Exact. Ouais, pour l'instant, il n'y a que moi sur leur liste. Il n'y a personne d'autre en dessous.
C'est un des favoris, en plus.
C'est le favori. C'est le binôme favori. Avec l'un des plus grands trimarans du monde. Avec l'athlète et marin incroyable qui est Armel Leclerc. Le binôme,
c'est le navigateur et le bateau.
Toujours. Ouais, on parle toujours de binôme dans
c'est solitaire. C'est solitaire, mais c'est une binôme.
Et oui. Ouais. Oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. L'un ressemble à l'autre, sa manière de préparer. C'est comme un chien et sa maîtresse. Et très souvent, les couettes sont à peu près les mêmes. Bah, c'est
pas un toujours.
Ça dépend
de
la taille du Doberman.
Un chien et son maître.
Oui, ouais, un chien et son maître. Non, mais ça
dépend. Ça dépend des couettes aussi.
Oui. Toujours est-il qu'il faut se remettre dans le contexte. Là, il y a 4 ans, j'ai 54 piges. Ça fait 12 ans que j'ai pas fait de multicoque en solitaire. Activité très spécifique. Tous ces réflexes indispensables à la survie, je crois les avoir oubliés. Je suis sur mon petit trimaran, que du bonheur. On me demande d'aller sur un engin délirant qui est non seulement 3 fois plus gros, mais 30 fois plus difficile à mener.
C'est pour ça que vous prenez des conseillers, vous faites aider aussi.
Alors après, on a des routeurs, heureusement, ce que je n'ai pas évidemment cette fois-ci, ce que je n'ai pas toujours eu, mais c'est pas ça qui va remplacer la force physique indispensable pour hisser une grande voile d'une demi-tonne, pour supporter le stress d'être à 80 km/h nuit et jour. C'est un truc de fou. Et ce truc de fou, je dis non immédiatement à Ronan Lucas. Et je réfléchis toute la nuit. Le lendemain, je lui dis oui, je vous passe les détails. Et puis voilà, quelques semaines plus tard, on gagne la route.
La victoire.
Pour la première fois,
c'est ça. La victoire et le record. Alors justement, Didier Ravon, vous nous avez rejoint. Vous signez donc cette route du Rhum, 40 ans de légende. Et bravo pour ce livre chez Gallimard. Parce que il est passionnant. Il est passionnant.
Avec beaucoup de photos.
Énormément de photos. Ouais. Beaucoup d'anecdotes. Je repense encore une fois à cette histoire d'Alain Colas où on découvre même qu'il y a des papiers qui se sont faits pratiquement au dernier moment de l'héritage.
C'est incroyable. Ouais. Un truc incroyable, c'est qu'en fait,
il va sortir
du SAS, l'écluse, et il appelle un journaliste tahitien et sa femme en disant
j'ai oublié une
attaché-case dans le coffre de la voiture qui est à l'autre bout du quai Vauban, enfin bref, et il faut que tu ailles la chercher en catastrophe. Et en fait, là-dedans, il y a les papiers. Dans cette attaché-case, il y a des contrats d'assurance vie pour ses parents, ses enfants, ses deux jumeaux qui viennent de naître quelques mois avant. Voilà. Et donc ça, c'est la première chose. Avec du recul, il a fallu presque 20 ans pour que cette affaire se ressorte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, ils ont vidé un peu le bateau avant le départ, en l'avitaillement. Et acte manqué ou pas, la balise de détresse,
on a retrouvé,
dont vous parliez tout à l'heure,
ailleurs.
Est rangée et repart dans le conteneur avec tout le matériel de rechange.
Ah là là.
C'est fou.
Alors ça, et puis la troisième chose qui est quand même aussi assez terrifiante, c'est que le radeau de survie, donc qui est théoriquement le truc qui se gonfle automatiquement en cas de pépin, il n'arrive pas à rentrer dans son logement, donc il le rentre à coups de pied, à coups de bottes, à 3. Et donc on imagine dans la tempête un mec tout seul de nuit
essayer de sortir un truc que 3 mecs n'arrivaient pas à ranger
Donc c'est alors après c'est des
alors qu'est-ce qui fait justement on essayait d'analyser la force de la réputation de la route du Rhum. Ce sont toutes ces histoires justement, ces drames humains, ces records battus, ce piment.
Oui, je crois qu'il y a plein de choses. Il y a eu des drames, il y a eu des exploits extraordinaires, Mais je crois que la magie de la route du Rhum, c'est aussi, je crois que c'est aussi pour ça que le public s'identifie, c'est que on part d'un endroit qui est magique, qui est Saint-Malo, en automne. Et puis quelques jours après, et puis pour les premiers, et puis quelques semaines pour les derniers, on arrive en été, quoi. C'est les Alizés, c'est la douceur de vivre des Antilles.
Au Pointe-à-Pitre.
Pointe-à-Pitre. Et c'est marrant parce que avant 78, avant la route du Rhum, deux Français sur trois ne savaient pas placer les Antilles sur une carte, sur un planisphère. Et donc ça a quand même fait, ça fait quand même du bien, quoi, que cette course existe pour
ça. Est-ce que c'est pas justement une course maintenant franco-française? On a l'impression que les classements, les 10 premiers sont que des Français.
C'est une course un peu franco-française, mais là, par exemple, cette année, il y a six catégories. Hein, ces six classes, c'est pas toujours très simple à comprendre, mais dans la catégorie des monocoques, ceux qui font le Vendée Globe, il y a deux Anglais qui sont, enfin, un Anglais et une Anglaise qui sont susceptibles de gagner. Mais oui, ça reste une course franco-française, mais c'est aussi ce qui a fait que le Made in France s'est énormément exporté. Si Loïc, il est allé naviguer avec les Suédois sur la Coupe de l'Amérique, c'est qu'ils voulaient avoir des gens comme lui qui avaient une légitimité. Donc c'est un laboratoire fantastique, la Route du Rhum, en fait.
Vous êtes journaliste et photographe, je précise, mais Leïla l'a dit, les photos sont sublimes.
Elles sont pas de moi, mais
c'est un choix artistique, en tout cas, que vous avez fait. Quel est votre regard, est-il rempli d'admiration pour ces skippers? Est-il c'est une passion que vous partagez avec eux?
Est-ce qu'on est jaloux aussi d'eux, finalement?
Je dirais pas comme ça.
Comme on serait deux héros, en fait.
Ouais, ouais, bah ouais.
Moi, j'ai jamais fait ce genre de choses. J'ai fait pas mal de bateaux. J'ai un marin d'eau douce, mais j'ai jamais traversé. Mais on a la chance d'avoir pas une complicité, mais on a la chance de pouvoir, on a des privilégiés de pouvoir naviguer sur ces bateaux, parce qu'on a la chance de naviguer sur ces bateaux. Alors nous, on fait des tours de manège, hein. Mais c'est quand même fantastique, parce que le soir, on rentre, on boit une bière et puis on est à l'hôtel. Mais n'empêche que c'est quand même extraordinaire. Et donc, non, il n'y a pas de jalousie, mais il y a, moi, j'ai une admiration profonde, quoi, pour les.
Pour eux, ils sont pas humains.
Si, c'est des gens humains, mais c'est des gens,
ce serait une bonne nouvelle, ceci dit, mais non.
Pour moi, vous êtes surhumain, pour moi.
C'est des gens extraordinaires et,
Nagui est inhumain, donc il est étonné de rencontrer.
Quand on a fait un tout petit peu de bateau, on se rend compte de la difficulté de ce qu'ils font. C'est ça qui est.
C'est fou, ouais.
Moi, je trouve ça ahurissant, quoi.
Et est-ce qu'il y a des passages dangereux, entre guillemets, parce que cette route, je crois que c'est dans la préface de Loïc, en disant que c'est sûrement pas le chemin le plus court,
oui,
c'est pas le droit chemin qui est le plus court, mais est-ce qu'il y a des endroits où on sait que ça va être
je pense qu'il y en a plusieurs, hein, je parle
sous contrôle de Loïc,
sous le contrôle de Monsieur Perron, mais déjà, il y a la sortie de la Manche. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 15 jours, là, ils sont tous sollicités. Puis tout d'un coup, ils se retrouvent seuls sur leur bateau. Les nuits sont super longues. C'est novembre. Il fait froid, souvent. Il y a des perturbations atlantiques qui déboulent. Et donc, on peut avoir du mauvais temps dès la première nuit. En plus, il y a beaucoup de trafic maritime à la Bretagne.
Il y a des bouchons. Est-ce que le danger, Loïc Perron, ce sont
les autres,
les cargos,
la plupart du temps,
ou la météo
autres. Tous les dangers de la mer viennent de la terre. Elle peut être la Terre elle-même, ou tout ce qui vient de la Terre, les autres bateaux qui viennent de la Terre, la plupart du temps, ce sont les autres. C'est ce qu'on croit sur la route, parfois à tort, mais c'est souvent ça. Et il est vrai que dans le cas de la sortie de la Manche, comme le disait Didier, c'est très compliqué parce que c'est pas large, il y a des cargos partout. On a interdiction de naviguer dans les rails de cargos, avec un trafic considérable qui augmente d'année en année de manière impressionnante. Tout ça fait que les manœuvres deviennent complexes, non pas sur des petits bateaux, une fois de plus, on peut toujours se débrouiller, mais sur les très gros. Ouais. L'exploit de cette route du Rhum et des précédentes, c'est toujours ceux qui vont la gagner. C'est pas l'ensemble de toute la transhumance organisée. Et
qui va la gagner, là?
L'un des six ultimes, c'est ça la grande difficulté. Éventuellement en IMOCA, c'est vrai, les fameux monocoques, même chose. Ceux qui vont gagner, qui vont donc passer moins de temps sur l'eau, ce sont ceux-là qu'il faut mettre en lumière. Ce sont ceux-là qui vont vraiment faire un exploit. Aller lentement sur l'eau, c'est pas compliqué.
Didier Ravon, vous signez, je le rappelle, dans la collection Voile Gallimard, La Route du Rhum, 40 ans de légende avec de sublimes photos, mais aussi ces textes, la manière dont vous racontez. Il y a presque un suspense dans la manière dont vous racontez. On connaît les résultats, on sait qui a gagné, on sait qui est malheureusement disparu, on sait ce qui s'est passé, mais on découvre beaucoup
des
de choses,
notamment.
Et c'est passionnant, et on parlera des femmes tout à l'heure encore avec Loïc. Merci d'être venu à ce micro, et surtout bravo pour ce livre. Tanguy Pastureau, Jean-Luc Mélenchon.
Aïe.
et remonté.
Oui, hier il était chez Bourdin, il l'a engueulé, il a hurlé sur les flics, a détruit la porte de son propre local. À côté de Mélenchon, Joestar sous Red Bull, c'est l'ourson Cajoline qui pionce dans le slip de ta mère. Maintenant, il imite même les accents. Hein, mais c'est le nouveau Michel Leb, Nagui.
Et on en parle après les infos. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudali, Tanguy Pastureau, Guillermo Guiz.
J'adore.
Ça, Guillermo. Oui,
ça va, il est beau ce mec.
Albert Dupont. Albert Agou. Albert. Daniel Morin.
Non, Hervé Morin.
Et Loïc Perron.
Bravo.
Christian Morin.
Non, non.
Loïc Perron qui se prépare. Ce que je trouve totalement dingue, c'est que dans 15 jours, vous partez pour la route du Rhum et que là, vous êtes détendu à Paris, au micro.
Allez bosser,
comment
enfin,
peut-on
Loïc.
Être détendu à Paris, ça, là, vous êtes des mystères de l'Homo sapiens.
C'est,
pour
un,
moi.
C'est un déchirement. C'est un déchirement.
C'est une apparence. Hein.
Tout à l'heure, avant l'émission, vous comptiez presque sur les doigts de vos mains le nombre d'heures que vous passez à Paris, tellement vous n'aimez pas,
ouais, j'aime pas trop.
La ville.
Ouais. Enfin, j'ai le luxe de pouvoir ne pas aimer la ville.
C'est ça.
J'apprécie bien ce privilège absolu hein, qui consiste à vivre en province.
Non, non, mais je ne sais pas que les Bretons avaient cette accent.
Si. Je ne sais pas pourquoi non plus. Mais...
La mode maintenant est d'imiter l'accent des régions. Voilà. C'est la mode.
C'est Capitaine Jean-Luc.
C'est la tendance. Didier Ravon a signé La Route du Rhum, 40 ans de légende chez Gallimard, avec la préface de Loïc Perron qui est notre invité jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, voici Tanguy Pastureau. Tanguy, cela fait 2 jours que la France a peur.
Oui, elle tremble d'effroi car le monstre est là, tapis, prêt à bondir. Son prénom, Jean-Luc. On n'a pas donné son blaze à une tornade, mais lui est plus destructeur. Son nom, Mélenchon, la bête de Caracas. Depuis mardi, les mères désespérées, pléonasme, disent à leurs gosses qui refusent d'avaler leur soupe « Ouf ta goule, bolosse, sinon Mélenchon va venir te manger ». Aux États-Unis, Marvel bosse sur une adaptation de la vie de Mélenchon, parce que lui c'est Comulc, le premier flic qui déplace sa freebox, il craque sa chemise, devient vert et défonce tout. Mardi, alors qu'on se remet à peine du remaniement qui a consisté à virer des inconnus pour mettre des anonymes, apparaît sur les réseaux sociaux une vidéo de Mélenchon chez lui. Donc on se dit « C'est pas vrai, voilà qui se prend pour Norman, il va nous sortir des vannes sur l'acné » la masturbation depuis sa chambre. Mais là, on réalise que dans son appart, plein de gens sont en train de fouiller. Il y a le retour de la carte au trésor sur la 3. Donc moi, je me suis dit, ils ont plus de budget, fini la Lozère en hélico, ils se traînent à quatre pattes dans les miettes de pain tombées entre les coussins du canapé de Mélenchon. Mais on voit pas Cyril Ferraud. On le remarquerait s'il était là, parce qu'il est lumineux et bien coiffé. Ce genre de mec pourrait me pousser vers l'homosexualité. Mais je n'ai aucune envie de me faire frapper en plein Paris par des cons. Il s'agit en fait d'une perquisition, parce que le parquet est sur 2 enquêtes sur les comptes de campagne et sur de présumés emplois fictifs. Ça veut pas dire qu'on les accuse de quoi que ce soit. Ce sont des politiques, donc ils sont honnêtes. Hein. Juste qu'on vérifie. Ça se fait souvent. En août, le local parisien d'En Marche a été perquisitionné. On avait trouvé 3 flingues non déclarées. C'est plus un parti, c'est le show Buffalo Bill. Et le siège du Modem aussi l'a été. On n'avait trouvé personne, ça c'est normal. Juste un document intitulé « L'avenir du Modem » comportant 2 pages vierges. Mais la différence, c'est que Mélenchon ne se prend pas pour de la crotte de poney. À la mairie, quand il refait sa carte d'identité, il raye son nom et écrit « Fils de Dieu ». Du coup, un policier dit « Ne me touchez pas, ma personne est sacrée ». Nous, on rêve de se faire toucher. Pour ça, on utilise Tinder ou YouPorn si on préfère se toucher soi-même. Mais Mélenchon, les contacts physiques, il déteste. Pour lui, un câlin, c'est un ami à 30 mètres de distance qui lui hurle « Coucou !» Et là, il enfile son écharpe tricolore de député en disant « Voilà pourquoi vous n'avez pas le droit de me toucher ». Quand ils étaient ensemble et qu'elle n'avait pas envie de sexe, la petite Iris Mittener qui était Miss France a fait le coup plein de fois à Kev Adams. Mais moi, si j'avais su ça en CE2, je disais à ma mère de me faire une écharpe bleu-blanc-rouge et pendant le chat perché, je disais stop, vous n'avez pas le droit de me toucher.
Bon, et Mélenchon apprend que son parti est également perquisitionné.
Oui, la France Insoumise, seul parti qui porte le nom d'un établissement SM qui serait tenu par un patriote. La police donc est en train de fouiller, Mélenchon et ses potes déboulent. Il y a Corbière, Quatennens, que des oufs qui ont la rage. Quand le free fight sera légalisé chez nous, ils feront tous les combats. Là, Mélenchon se met à hurler. Le flic devant la porte a perdu l'usage de ses tympans. Il a déclaré « C'est pas plus mal, ma femme écoute Christine and the Queens ». Puis il crie « Allez, on défonce la porte ». C'est-à-dire qu'ils entrent en effraction dans leur propre local. Avant, seul un cambrioleur qui estimait avoir tout ce dont il avait besoin chez lui faisait ça. Donc il pousse sur la porte, Mélenchon dit « Ça y est, ça craque », lorsque, véridique, un mec leur dit « Non mais en fait, c'est ouvert de l'autre côté ». Il y avait une autre porte, ils n'ont pas vérifié. C'est peut-être des députés, mais c'est pas des flèches. Donc Mélenchon entre et là, il oublie sa propre appréhension des contacts physiques, puisqu'il pousse un policier. Lui peut nous toucher, mais nous non. Il y a que les filles dans les clubs de pole dance qui font ça. Moi, si je le croise, je prépare 4 billets de vin que je lui fourre dans le slip, en murmurant « Fais-moi rêver maintenant, ma cochonne ». Ensuite, c'est la bousculade, le flic tombe, Corbière hurle « Je suis député, moi, monsieur ». Député, c'est comme le totem d'immunité à Koh-Lanta. On ne dit rien, on ne touche pas, la personne est sacrée, ensuite on dépose des offrandes à ses pieds en allumant de l'encens. Un Corbière, c'est l'équivalent au Tibet d'une statue de Bouddha. Pas niveau zen, par contre, parce qu'il a braillé comme un veau qu'on sépare de sa mère en pleine tétée. Hein, lui, vous le lâchez dans un festival de métal, les mecs venus pour voir le groupe Napalm Death vous disent « Ouais, non, mais là, c'est trop violent comme son. » Bref, ils sont timbrés, les gus, parce que ce sont des députés, justement. C'était les premiers à dénoncer à raison la violence de Benalla. Et là, on les voit remonter comme des catcheurs sous stéroïdes, juste parce qu'il y a 4 flics en uniforme dans leur salon. Mais enfin, ils n'ont pas fait beaucoup d'enterrements de vie de jeune fille. Parce que si la future mariée a du brosouf, c'est ça qui se passe. Et en même temps, je les comprends. Une maison, un local professionnel, c'est une extension de nous-mêmes. On n'a pas envie qu'on fouille. La seule fois où j'ai fouiné dans votre placard, Nagui, et que j'ai trouvé les œuvres complètes de Balzac, j'étais choqué. Je me suis totalement trompé sur le personnage. Enfin, Mélenchon a dit « Certains s'intéressaient au contenu de mes tiroirs et à la lingerie qui s'y trouvait. » La lingerie. Maintenant, dans ma tête, j'ai la vision de Mélenchon en petite culotte. Je le vois sortir de la salle de bain en me disant « Je te plais toujours physiquement, bébé ?» Dans ma tête, il bouge son boule en me disant qu'il m'aime. Puis d'un coup, il m'éclate contre le mur en hurlant « Moi, je peux, mais toi, tu me touches pas. Je suis sacré, je suis la République, je suis l'univers, je suis une entité cosmique. » Mélenchon, c'est Raël.
Merci, bravo, Thierry Bachelot.
Midi sur France Inter.
Et Tanguy a retrouvé samedi à Millau pour le toucher notamment.
Pour le coup, ça
marche jamais. On peut toucher des Tanguy après le spectacle.
Il faut lui demander avant.
Il est jamais contre.
Poliment. Ouais. Loïc Perron, vous allez donc participer à cette route du Rhum, je le rappelle, départ le 4 novembre, Saint-Malo, Pointe-à-Pitre. Tel est le trajet que vous allez parcourir, mais surtout à bord du bateau sœur, le Sister Ship. Comment on traduit ça? Bateau sœur.
Oui, le petit frère. Bon, ouais, ça le va, petit frère. Les Anglais ont tout inventé, même des bateaux féminins. Et c'est pas idiot, ceci dit.
Les bateaux sont au féminin en Angleterre.
Ouais. Exactement. Her Majesty Ship. Mmh.
En fait, les locomotives aussi.
Ah bon?
Oui, tout ce qui
sert à transporter.
Tout ce qui roule, qui navigue et tout ce qui fume. C'est féminin.
Mais la femme qui transporte.
Transport amoureux.
Et donc
c'est le Sister Ship.
C'est
l'original, ce petit trimaran avait gagné en 78. Ouais. C'est tout petit trimaran construit aux États-Unis. Et entre-temps, son constructeur génial, qui l'avait prêté à Maybirch, le constructeur de ce bateau aux États-Unis s'appelait Walter Green. Et puis les Français sont tombés amoureux de ces petits bateaux, forcément, surtout celui qui gagne. Il y a un skipper français, bon copain à l'époque, j'avais 18 ans à ce moment-là, qui veut le récupérer, qui traverse l'Atlantique pour le ramener en France, et il chavire. L'original disparaît. Donc ce constructeur génial, le Walter Green, reconstruit
à l'identique.
À l'identique, et c'est celui que j'ai trouvé on the web. Dans une petite rivière en Angleterre il y a 5 ans, et on l'a remis
enfin, vous l'avez
le
trouvé
plus proche possible.
Parce que vous l'avez cherché.
Parce que j'ai cherché.
Vous le vouliez.
Oui.
Pourquoi?
Parce que je voulais justement retraverser l'Atlantique en hommage
oui,
à
oui, mais pourquoi ne pas construire ou prendre un autre bateau
Parce que le
petit
principe
comme
du vintage,
ça.
C'est quand même un petit peu de prouver que, justement, c'est l'antithèse, ouais. Au moins, c'est la confirmation que c'est l'anti-obsolescence programmée, ce que je suis en train de montrer. Mm-hmm. Là, justement, que 40 ans après, dans les mêmes soupières, on fait de magnifiques soupes.
Alors, vous dites, j'ai envie de montrer ça. C'est-à-dire, vous voulez prouver, quoi, qu'on peut naviguer sans tous ces appareils,
pas du
sans
tout.
Ces ordinateurs.
Non, pas du tout.
Mais c'est juste, j'ai envie de montrer.
Oui, de montrer.
Quoi?
Grâce à qui et comment en est-on arrivé là, en fait, dans ces 40 dernières années, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Donc c'est un hommage à nos
pionniers.
À nos anciens, d'accord.
Alors, les pionniers ont démarré il y a longtemps, quelques milliers d'années, non pas à traverser l'Atlantique, mais en tout cas à être sur l'eau. On a assemblé des rondins, on les a creusés en Europe, on les a assemblés les uns à côté des autres dans le Pacifique. C'est pour ça qu'on a des multicoques d'un côté, des monocoques de l'autre. C'est joli. Il y a toute l'histoire, l'archéologie maritime pour montrer que les découvertes sont dues aussi au matériel qu'on a sous les pieds. Et cette évolution, cette intelligence humaine, qui est heureusement capable du meilleur comme du pire, nous a permis permis de progresser de manière considérable sur le dernier demi-siècle. Certains de ces acteurs importants, c'est Mike Birch, Tabarly, Walter Greene, des gens comme ça, et j'ai eu la chance d'en être le témoin et parfois l'acteur aussi.
Et Florence Artaud et Hélène MacArthur et, voilà. Et les femmes. Alors quelle est la place de la femme dans le monde qui semble très macho de la navigation? On a l'impression que c'est, on part de loup de mer, on a l'impression que c'est, y a que des capitaines, que des hommes.
C'est pas faux, et c'est pas tout à fait logique, mais c'est comme ça. S'il n'y avait des problématiques d'équilibre et d'équité entre hommes et femmes que dans la marine à voile, ça se saurait, ce serait presque une bonne nouvelle, mais malheureusement c'est uniformément réparti.
Il y en a plus maintenant?
Moins, enfin, moi je trouve, Florence justement, Isabelle Autissier et d'autres,
Aline
et MacArthur, il y en a beaucoup qui ont montré la voie, une voie. Et surtout qui ont prouvé que la navigation en solitaire n'était pas réservée aux muscles,
c'est ça.
Mais essentiellement aux neurones et au respect, ce qui sont souvent des valeurs bien partagées dans le monde féminin et pas totalement bien réparties chez les hommes. Et c'est pour ça qu'elles réussissent, mais elles restent exceptionnelles dans tous les sens du terme. Et c'est tout le problème. Chez les hommes, il y a trop de monde. La route du Rhum avec 126 pèlerins, aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de monde. Ça devient une transhumance. Il n'y a que 6 femmes cette année. C'est pas beaucoup sur 126.
Non, vous parrainez la fondation Action Enfance. Et justement, on a l'impression avec le nom des bateaux que ça devient une
voire ça a toujours été
commercial.
Ça fait longtemps.
Ça fait depuis toujours, depuis Alain Colas, non pas sur Menureva, mais sur Club Méditerranée. Enfin, on va pas citer autant de marques, mais c'est la preuve que le support voile est justement un excellent support de communication, tout simplement. Ça fait un peu caravane du Tour de France, mais c'est encore plus efficace que ça.
Mais parce les navigateurs ont besoin de ces sponsors pour financer les bateaux.
Ça coûte cher comme d'habitude, pas mal de choses dès qu'on veut fabriquer.
Ça se compte en centaines de milliers d'euros.
Mais en millions parfois, évidemment. D'accord. Mais sauf qu'on peut les amortir sur pas mal de temps. Globalement, le prix d'un bateau vaut quand même beaucoup plus cher que le prix d'un ballon de football. Mais le prix d'un skipper vaut à peine le prix d'un ballon de football. Donc voilà.
Vous faites comment, vous?
C'est ça ce qu'il faut. Tout est relatif.
Hein. Vous
alors là, je suis à compte d'auteur. C'est tout le truc. Je suis vraiment à compte d'auteur. C'est une histoire qui me tient à cœur et je ne voulais pas avoir des partenaires classiques.
Donc c'est vos sous à vous?
C'est mes sous à moi. Mon bateau est à vendre à l'arrivée en Guadeloupe. Je fais un free delivery, comme chez Amazon, tu sais. Je traverse l'Atlantique. Je vous le livre en Guadeloupe gratuitement. Il est à vendre.
Et est-ce que vous faites des paris avec les copains sur le nombre de jours?
Il est à vendre quel prix?
Il est à vendre la moitié de ce que ça m'a coûté, 120 000 euros hors taxe.
Je peux vous le dire. Ah, vous pourriez faire une plus-value après?
Eh ben non, les bateaux, on ne gagne jamais de sous.
Ah ouais, dommage, mais c'est le vôtre. Non. C'est un peu mythique, collection.
Oui, mais il n'y a rien de pire que d'avoir des bateaux.
On peut faire une photo avec vous sur le bateau, non?
Il y a des goodies,
ça vaut tout ça.
Pourquoi pas? Mais on n'est pas dans le sport majeur, faut pas oublier. On a quelques événements majeurs comme la Route du Rhum qui font un peu frémir la terre, c'est vrai. Mais le reste du temps, la voile n'est pas aussi populaire que le football, donc on génère pas autant de ferveur. Mm-hmm. Fort heureusement, c'est pour ça qu'on est tranquille chez nous.
Et donc Gaëlle, tu veux savoir combien de temps?
Oui, en combien de jours vous estimez être capable de faire cette traversée? Est-ce que vous faites des paris entre vous?
Surtout pas.
Jamais.
Non, parce que la durée en mer importe peu quand on est en compétition. Le but du jeu, c'est d'arriver avant le second. C'est ça le principe d'une compétition,
mais
quelle qu'elle soit.
Comme là, vous partez au départ pas tant pour gagner, vous avez bien
la
conscience
référence,
que les ultimes seront devant.
Oh, mais ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout, c'est comme si je faisais les 24 heures du Mans avec mon Solex. Vraiment, lequel Solex aurait gagné les 24 heures il y a 40 ans, une fois de plus. Donc il les a gagnés, il les a gagnés en 23 jours, justement. Voilà la référence. Mais la dernière Route du Rhum que j'ai faite en 7 jours. Donc je mettrais entre 20 et... Oui, c'est une évolution sidérante. Il faut essayer d'imaginer ça. Quand je vous dis qu'on multiplie nos vitesses par 3 en 40 ans, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, une Formule 1 devrait aller à 1200 km/h. Voilà tout le truc.
En tout cas,
et c'est la manière dont on navigue sur l'eau quand on est sur des gros bateaux.
Il n'y a pas que la folie, il n'y a pas que les coups d'éclat, un peu de peur, vous en avez parlé tout à l'heure, et de renoncement. Daniel Morin, on le voit, c'est un exemple, Loïc Perron, cette Route du Rhum, l'aventure la plus extrême possible et imaginable.
J'en peux plus de ce Nagui, j'en peux plus, mais retenez-moi ou je le tabasse! Non, mais retenez pas! Allez, là, donne-moi tes pompes, que je le violente à coups de talon aiguille, que je lui crève les yeux, que je lui perce les tympans, que je lui perfore le croupion. Ça va me calmer. Quelle honte, je suis cramoisi de gêne et de bouffée de chaleur meurtrière. Loïc, je suis désolé, vous pouvez quitter le studio, je comprendrai. Partez, fuyez, emportez toutes les bouteilles de cristalline si ça vous chante, si c'est la moindre des choses. Oh, j'en suis sûr que vous n'avez jamais baigné dans une eau aussi saumâtre, polluée et tiédasse que celle qui vient de sortir de la bouche du sarrasin en cheveux aussi gris que sale. Et pourtant, oui, monsieur Guy, c'est vrai, je le reconnais en matière maritime. Vous en connaissez un rayon, je sais. Vous êtes fort comme une rafale qui vient vous gonfler le foc. Vous êtes sensuel comme une morue qui se tortille dans un filet. Vous êtes malin comme un surimi qui se déguise en bâtonnet. Mais vous êtes con comme une mouette sans ailes. Oh, nom de Dieu, arrêtez! Qu'est-ce que vous y connaissez à l'aventure? C'est le seul moment extrême de votre vie, c'est quand vous avez découvert votre salaire sur France Inter. Je vous revois encore devant la petitesse du chiffre pris de vertige et de vomissement, vomi dans lequel on distinguait clairement, alors que vous vous prétendez végétarien, des bouts de veau et de stagiaires. Et qui me disait, juste avant l'émission, aventurier Le Perron, tu parles. La seule traversée qu'il a réussie, c'est celle de sa rue qui sépare la maison du bistrot pour aller se saouler à l'eau de vie de Palourde. Hein? C'était qui cet être aux organes génitaux atrophiés, aux yeux aussi fourbes que purulents et aux parfums de poissons avariés? Non, pas la peine de te mettre du déodorant en douce. On sait que c'est toi, Guillermo, l'enfant terrible et mutilé des faubourgs de Buenos Aires. Enfin, pour en revenir à votre remarque sur l'aventure, monsieur Guy, comme quoi elle est faite de peur, de renoncement, de coups d'éclat, de folie, même tout ça. C'est bullshit et compagnie. La seule peur dont vous êtes expert, c'est celle que vous foutez aux attachés de presse sur qui vous pratiquez harcèlement sexuel et moral. Le seul renoncement qui vous soit familier, c'est celui dont vous faites preuve face à tout ce qui a rapport à la générosité. La ferme! Le seul coup d'éclat que vous connaissez, c'est celui de votre chevalière sur laquelle trône un diamant 60 carats taillé par des enfants aveugles somaliens et qui brille à en décoller des rétines quand on croise un rayon de soleil. Quant à la folie, méfiez-vous de la mienne qui, sous le poids de la haine qui m'anime quand je vous vois, pour être bien m'amener à vous couper les jambes pour vous obliger à marcher avec votre zizi. Une fois encore, monsieur Guy, plus vous m'énervez, plus vous dites n'importe quoi.
Merci, moi. La bande originale avec Nagui.
Je voulais juste savoir si ça va mieux, Daniel.
Là, oui.
Il se remet, là. Maintenant
que c'est dit, ça va mieux.
On le retrouve.
Non, mais il faut que ça sorte.
Ouais.
À un moment, il faut que ça sorte. Loïc Perron, vous avez en tête d'autres projets, parce que là, la route du Rhum...
Je dis pas qu'elle est faite,
mais
en 2-3 mois.
En tout cas, non, mais en tout cas, dans votre tête, tout est prêt. Vous nous la racontez comme si vous l'aviez déjà faite avec ce sextant et avec ce bateau Happy pour aider Action Enfance. Vous avez forcément déjà la tête à dans un an, deux ans, trois ans. Quels sont ces projets fous?
Il y a un temps pour tout. Quand on a 59 ans en décembre, ce qui va être mon cas, on peut moins faire de solitaire sur des gros bateaux et encore moins des multicoques. Donc ça y est, tout doucement, je coche les cases malgré tout. Les années comptent double, hein, avec nos cheveux blancs.
Est-ce que les cases sont celles des victoires en disant, ok, ça c'est fait, j'ai gagné un tour du monde, j'ai gagné une transat en solitaire, j'ai battu des records?
Pas du tout, parce que cette case de la route du Rhum, je l'avais cochée en me disant, je ne la ferai plus il y a 12 ans, enfin 16 ans maintenant, après avoir... fait naufrage ou presque en 2002 lors d'une énième édition de Route du Rhum et je n'imaginais plus la gagner un jour, tout simplement. Donc non, pas du tout. On n'est pas obligé de gagner pour réussir, encore moins en voile d'ailleurs, mais dans beaucoup d'autres domaines. La défaite n'est pas un échec, ou du moins. C'est important, hein. Juste le fait d'être au départ, d'être à l'arrivée, de se mesurer aux autres et d'être battu par meilleur que soi, c'est parfaitement acceptable. C'est toute la beauté en général de notre existence, c'est de respecter justement la valeur des autres et sa propre valeur qui est très variable. Le vainqueur d'une épreuve, quel qu'il soit,
on est d'accord,
c'est pas le meilleur. C'est celui qui fait le moins d'erreurs.
Respecter celui qui gagne, on est totalement d'accord. Mais
après, il y a un temps pour tout.
Travailler, se dépasser et réussir, il doit y avoir aussi quand même une satisfaction.
Bien sûr, mais on n'est pas obligé d'être en solitaire constamment non plus. Heureusement qu'il y a d'autres épreuves à la voile que du solitaire. On parle essentiellement de la route du Rhum en France tous les 4 ans ou du Vendée Globe parce que les médias français depuis 50 ans se sont totalement focalisés, ont mis énormément de lumière sur le solitaire à cause de Tabarly,
Qui est bien expliquée dans le livre aussi, la route du Rhum aussi, la manière dont...
C'est une focalisation, mais ça n'est pas du tout la seule manière de s'exprimer sur l'eau. Quand on va chez les anglo-saxons...
De quoi avez-vous envie, vous?
Mais justement, plutôt en équipage, parce qu'avec vu mon âge avancé, autant faire le boulot par les autres. Donc c'est ce que je fais de plus en plus souvent, c'est d'être impliqué dans les grandes écuries passionnantes technologiquement comme la Coupe de l'Amérique. Didier le rappelait, j'ai eu la chance de faire les 3 dernières campagnes avec des écuries non françaises d'ailleurs. Et puis c'est les bateaux de croisière bizarrement qui m'intéressent, c'est l'évolution des bateaux de croisière, la manière d'essayer d'être un peu plus intelligent avec l'hybride. On en est beaucoup, on en est un peu au balbutiement sur les bateaux électriques, enfin les propulsions différentes à voile, les kites, des choses comme ça, les foils. Il y a plein de choses passionnantes. Et puis, continuer toujours à régater à armes égales le plus possible. Et l'année prochaine, par exemple, je vais refaire la prochaine édition de la course du Figaro, qui est une course très, très, très complexe, sur des tout petits bateaux de 8,50 m. Tout le monde a le même tiré au sort. Oui. et on mesure les talents des marins uniquement. Et c'est passionnant et on retrouvera avec grand plaisir les Michel Desjoyeaux, les Yann Eliès, tous les champions d'aujourd'hui et de naguère dont je fais partie, se remesurer à armes égales au mois de juin prochain.
Vous parlez beaucoup de l'âge de naguère, de vos cheveux blancs. Est-ce que vous vous êtes donné une date limite de péremption?
Non, fort heureusement. Non, c'est
bah, y a une pas, fois y a plus. Pas un jour vous allez arrêter?
Ça ne peut pas être comme dans d'autres activités sportives avec
retraite.
Oui, brutal, un jubilé, un jour on joue, le lendemain on est entraîneur ou tenancier de bistrot. Et c'est vrai, et c'est malheureux. Il y a plein d'activités sportives qui sont brutales de ce point de vue-là. L'arrêt est brutal. Sur l'eau, non, puisqu'il y a plein d'autres manières très différentes de s'exprimer. À chaque fois. C'est pas toujours en solitaire sur le plus grand bateau du monde, c'est ce que je veux dire. Ça n'est pas la seule manière de s'exprimer sur l'eau.
Il est donc inimaginable que vous soyez dans un fauteuil chez vous, tranquille.
Ou dans un studio radio à Paris,
à bouquiner.
Toutes les semaines.
Inimaginable.
Non, mais restons. Rends ça dans la gueule.
Non, mais restons. Restons en Bretagne. C'est inimaginable.
Pour l'instant, oui, mais j'attends.
De voir grandir vos petits-enfants.
Mais c'est ce que je m'attache à faire le plus possible. L'intérêt de notre activité, des métiers d'absence d'ailleurs, c'est justement que quand on est là, on est là. Mmh. Et quand on n'est pas là, on n'est pas là. Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Attendez, vous pouvez le répéter, je le note.
Oui,
c'est vrai. On est là.
Et je l'ai appris, non pas à nos dépens, mais notre papa, capitaine Lancourt, n'était pas là quand il n'était pas là, mais au moins quand il était là, il était là. Et à chaque fois, ça le faisait chier parce que le boulanger du Pouliguen, à chaque fois qu'il voyait le commandant Perron, ah, commandant, vous êtes encore en vacances. Il voulait lui mettre un pain, justement.
Bien.
Non, mais je peux faire partie de la banque si vous voulez.
C'est à Paris. C'est pas possible. Vous avez un rêve encore?
La traversée en solitaire en optimiste.
Non. Le rêve depuis 30 ans, mais qui n'est pas assouvi, et c'est pour ça que ça reste un rêve, c'est justement de faire un tour du monde en famille sur un bateau de croisière que je dessine et que je transforme au fur et à mesure des années qui passent.
Donc ça va arriver un jour?
Bah oui, enfin avec mes petits-enfants peut-être.
On vous le souhaite de tout cœur.
Oui.
Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour les fans de l'humoriste, humaniste, bobo, vegan, Leïla, Kadour, Boudadi, qui ont découvert ce matin une personne abjecte, hautaine, odieuse, qui se demande si Kylian Mbappé s'est, je cite, désinfecté après avoir rencontré des enfants pauvres.
Ça m'avait choqué.
C'est vrai, c'est ce que t'as dit.
Ça va pas.
Moi, je me désinfecte quand je
vous
touche.
Honte à toi. Et rends-moi ton gel douche au Mitosil. Rends-moi dessus. Alors, désolé maintenant pour les fans de l'œil Perron qui ont découvert ce matin que leur idole n'avait pas, je cite, le cul propre. Alors, les gars, vous savez, pour être très honnête, il n'est pas le seul autour de cette table. Ça sent un peu fort ce matin. Guillermo, sans déconner, fais un effort, tu schlingues. Désolé pour Nicolas Demorand, Laura Adler, Léa Salamé, enfin bref, tous ceux qui n'aiment pas l'eau à France Inter et qui n'ont pas supporté l'émission de ce matin. Faites gaffe, les gars, si vous nous chauffez, demain, on invite Benoît Poulvord et Gilles Lelouch pour parler natation synchronisée.
Ce qui sera le cas, évidemment.
Ah, bah, vous voyez.
Le livre s'appelle La Route du Rhum, 40 ans de légende. Signé Didier Ravon, c'est chez la collection Voile Gallimard avec une préface de Loïc Perron et tout un chapitre d'ailleurs consacré à Loïc Perron puisque détenteur de la dernière victoire en 2014, détenteur du record qui est fait pour être battu aussi. Vous attendez à ça, j'imagine.
Bien sûr, bah oui, évidemment. Ça ne sert à rien les records. C'est la cerise sur le bateau.
Très bien. Et Loïc, de prendre donc cette route du Rhum à partir du 4 novembre prochain.
Soyez nombreux, Saint-Malo. 14h.
Rendez-vous 14h. Merci capitaine, merci mille fois.
Merci l'ami. Merci à vous.
On t'aime l'ami. Bonne route du Rhum. Rendez-vous demain avec Benoît Poulvord, avec Gilles Lelouch. Et
ce
sont les carnets de campagne maintenant.
On reste dans l'eau.
Avec Philippe Bertrand.
Oui, salut les amis. Heureusement que je suis dans un autre studio. Je sens rien.
Réjouis-toi.
J'avais une question à deux balles. Il fait combien de tonneaux le bateau de Loïc?
Ça dépend si j'ai envie d'un ou deux. J'en ai aucune idée.
Non, c'est à cause de la route du Rhum que je posais.
Oui, j'avais envie, bien sûr.
Il y a un alcotest à l'arrivée, non?
Quand on repart de là-bas, oui.
Merci, bonne route.
Merci.
Salut.
Ciao.